dans le tempo, 13e épisode. Let's go! Tu as aimé ce petit hommage en intro, Michel?
Ça m'a beaucoup plu.
J'ai pas osé faire un Let's Gong, mais le cœur y était.
Ouais, ça viendra.
Bienvenue dans le tempo. En tout cas, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de musique. Petit rappel avant de commencer, ce podcast est disponible en audio et en vidéo. Vidéo sur YouTube, audio sur toutes les plateformes. Donc adapté, vous voyez, en fonction de vos façons d'écouter, pour vous accompagner sur les trajets, etc. N'hésitez pas à l'audio. Si vous voulez voir nos tronches, c'est la vidéo. Au choix. En tout cas, figurez-vous que DLT a aussi bientôt un an.
Oh là
Michel,
là.
Ça fait bientôt un an qu'on fait ça et on fêtera...
Ça m'en a paru 10.
C'est... Oh non, c'est terrible.
Ah, oui, non.
En tout cas, on fêtera notre anniversaire pour le prochain épisode, Michel.
Yes,
on va faire un truc absolument incroyable. Je survends un peu le truc. Non mais on va faire une émission quand même un peu particulière pour fêter ça. Donc ne manquez pas le prochain épisode. Et puis voilà. J'ai fini la promo, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on reçoit deux invités pour aborder un aspect de la musique que nous n'avons pas encore traité. On va à nouveau parler de musique électronique durant cet épisode, mais avec un angle plus politique, plus socio-culturel, puisqu'il va être question de la promotion de la musique électronique. Comment militer pour la visibilité d'un genre musical? Quel rapport entretenir avec la population, avec les pouvoirs publics, etc.
Tout à fait, mon cher Salman. C'est réel. Et pour ça, nous avons deux invités de choix, qui sont Thomas Bangalter et Guy Manuel de Au Même Cristo.
Quel plaisir de vous recevoir, les gars.
Ça enfin. Fait plaisir. Enfin.
C'est mieux comme ça ou pas? Vous nous reconnaissez?
C'est pas mal. On a les gars de chez Technopole, donc Tommy Vaudecrane et Max Ledizet, ou Ledizès, je sais pas comment tu préfères que je prononce.
Ledizès,
ok. Vous travaillez donc pour Technopole, qui a pour objectif de promouvoir les musiques et cultures électroniques auprès des pouvoirs publics, organismes professionnels et médias. Vous organisez la Technoparade depuis 98, c'est à ce moment-là qu'on chante la, et Tutti Chianti. Et vous avez pour but de soutenir la scène électronique française et internationale en mettant à disposition un espace de diffusion unique et une forte exposition médiatique. Est-ce que vous pensez qu'on peut résumer vos actions donc en trois actes, politique, réseau et événementiel?
Ouais, c'est bien, c'est très bien. Ouais, on va dire défense, reconnaissance, promotion. Des cultures et des musiques électroniques, mais ça résume bien ce que tu as dit.
Ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes une association avant tout, que vous êtes bénévole, à l'occurrence donc président et vice-président, que vous avez des activités dans la musique en parallèle, carrière d'artiste, travail dans le management, etc.
Oui, voilà. Donc Tommy, toi, t'es DJ et producteur, notamment avec le groupe Balagan,
absolument. Balagan.
Donc Tommy, toi tu es président, Max tu es le vice-président et Max tu travailles aussi dans le booking, je vois AMS Booking.
Voilà c'est ça, je suis cofondateur du coup de l'agence AMS Booking qui est une agence de management d'artistes et d'organisation de tournées.
Ce qui est intéressant avec Technopole, donc cette association qui regroupe, voilà, qui essaye de militer vraiment pour la reconnaissance des musiques électroniques, c'est que vous existez depuis 96, une grande expérience. Alors vous avez rejoint l'aventure un peu après, mais aujourd'hui vous êtes les représentants, voilà, de cet héritage d'une certaine manière.
Les figures de proue.
Bah absolument. Et vous êtes donc actif depuis longtemps et votre activité, comme le disait Michel, elle est divisée un peu en différents secteurs. On a d'un côté l'action un peu plus politique, voire une forme de lobbying, vous l'assumez, et puis évidemment le travail plus socio-culturel autour de l'événementiel, l'accompagnement d'artistes, de la formation des professionnels, etc. Justement, on s'était dit que pour parler un peu de tous ces aspects assez particuliers quand même de la musique, notamment le rapport aux politiques, je le trouve assez passionnant, intriguant, on allait diviser justement un peu l'émission pour discuter de tout ça, mais peut-être en préambule, avant de parler, voilà, de tous ces aspects de vos actions, quand même définir peut-être un peu la musique électronique selon vous et questionner un peu l'image de la musique électronique parce que c'est au cœur quand même de vos questionnements, de votre travail, c'est ce que représente la musique électronique en France, comment les gens l'aperçoivent, etc. justement, on a déjà posé la question à Toxic Avenger lors du dernier épisode, mais j'aimerais aussi avoir voilà votre vision. Est-ce que ça a du sens de parler de musique électronique? Est-ce qu'on ne devrait pas parler des musiques électroniques? Est-ce qu'il y a une culture musique électronique? Comment vous voyez les choses?
Bah, moi, j'ai découvert la musique électronique quand j'avais 14 ans, tu vois, et je pense que, en gros, c'est la dernière grande révolution qu'il y a eu dans les musiques, tu vois, où quand on parle de révolution, tu vois, on parle d'un mouvement musical, d'une manière de la consommer, donc les raves, d'une drogue, généralement, qui l'accompagne, et d'un look vestimentaire avec des codes. Et en fait, la musique électronique, depuis ça, il y a eu des sous-genres de musique électronique qui ont créé des genres comme le dubstep, tu vois, la drum and bass ou la hard techno, mais c'est quand même la dernière grande révolution qu'il y a eu. Et donc en termes de moi, là je te dis pour moi hein, ce que ça représente pour moi ça a été vraiment la musique de ma jeunesse, tu vois, qui a fait que bah en fait moi j'étais très jeune quand les raves ont commencé, et donc j'ai été vraiment pris par ce mouvement où il y avait quelque chose de contestataire. C'était un peu la suite du mouvement rap et du mouvement punk, tu vois. Et moi je me suis beaucoup reconnu là-dedans puisque c'est des musiques aussi que j'écoutais. Et puis nous, moi avec mon âge, tu veux, on n'est pas des gens qui ont grandi dans la musique électronique, ça n'existait pas en fait. Qu'on était tout petit, c'était vraiment des trucs très underground, Kraftwerk, tout ça. C'était, il y avait la dance, mais ça restait des choses assez différentes de ce qu'on voyait. On était vraiment au balbutiement de l'émancipation de ce genre. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment un truc d'unification, de casser un peu les barrières entre les gens. Et vraiment, les raves, c'était pendant un moment les seuls endroits où tu pouvais autant côtoyer des gens de tous milieux, tu vois, que ça soit des milieux de classe aisée, des milieux populaires, des gens de différents horizons. Et ça, c'est vraiment un truc que la musique, de toute façon, a comme pouvoir. Mais c'était d'autant plus vrai, notamment dans les free parties, puisque c'était gratuit en plus. Et donc ça, ça a été une grosse claque pour ça. Et en France, je pense que c'est vraiment un mouvement hyper important, notamment sur la scène musicale, puisqu'on est depuis quasiment le début les lanceurs de tendance et quasiment les inventeurs de cette musique, avec Pierre Henry, avec Schaeffer, et puis après avec la French Touch et avec tout ce qu'il y a eu, et puis Justice, et puis tu vois, tu parlais de Toxic Avenger qui a fait partie de cette vague. Voilà, alors à chaque fois on a lancé, tu vois, des grandes tendances, des grandes vagues musicales. Donc bien sûr, en France, ça représente quelque chose d'hyper important, je pense, qui font partie même de notre patrimoine, je dirais.
C'est marrant parce qu'on voit bien que toi, ta définition, elle est très liée à ta propre expérience, à ce que t'as vu comme scène, et presque tu démarres l'histoire des musiques électroniques avec toi, la scène que t'as connue, j'imagine dans les années 90 à peu près, c'est ça, même un peu
ouais,
avant.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. À la fin des années 90 même.
Ouais, même fin des années 90. Et toi, Tommy, t'as une même vision des musiques électroniques? Est-ce que vous vous retrouvez sur, tu vois, là-dessus, ou est-ce que justement vous avez des visions différentes, et comment on regroupe un peu, parce que Max, c'est pas la seule musique électronique qui existe, tu parlais de plus anciens, etc. Comment on fait le lien avec tout ça? Mais déjà, Tommy, toi, ton expérience?
En fait, moi, c'est pareil, hein. Moi, j'ai toujours aimé les choses un petit peu à la marge, les contre-cultures, donc j'étais beaucoup dans le rap de la fin des années 80, dans les sons de système, raga, et tout, en fait, tous ces événements qui te permettaient de sortir, parce que déjà, à l'époque, c'était pas de basket en boîte de nuit, hein, donc si tu voulais sortir, fallait trouver d'autres trucs à faire. Et moi, c'est pareil, hein, j'ai tout de suite été attiré par cette mixité, cette diversité, et surtout cette manière de créer, en fait, parce que la musique électronique, c'est de l'expérimentation, hein, c'est comme ça que ça a commencé, hein, c'est des gens qui avaient, des synthétiseurs, donc des outils différents que les instruments de musique classique, et qui ont commencé à bidouiller, à faire des sons, à faire des trucs, et puis finalement à développer des genres, et tous les genres de musique électronique, finalement, ils sont un peu arrivés comme ça, hein. Les mecs, ils avaient des outils pour le hardcore, par exemple, ils les ont poussés un peu à l'extrême, et puis ils ont fait de la saturation sur les basses et des trucs comme ça, et finalement à chaque fois c'est cette envie d'expérimenter, d'aller plus loin. Et je pense que c'est ce qui rassemble vraiment la plupart des artistes et la plupart des créateurs de musique électronique. Donc c'est vraiment cette claque que tu te prends, et puis à tout âge, hein, parce qu'on voit encore aujourd'hui des jeunes qui sortent dans des raves et qui font waouh, mais c'est quoi ce truc là, c'est extraordinaire, c'est génial. Donc moi c'est ce que ça m'a fait, hein. Moi je te parle de ça, c'était en juin 1992, donc il y a presque 30 ans. Ça me rajeunit pas, mais c'est comme ça, hein. Je me sens pas pour autant vieux, donc ça va. Et donc c'est ce truc là, en fait, de de mélanger les gens, de mélanger les genres, d'innover en fait. Alors ça s'est beaucoup standardisé depuis, comme disait Max, il y a des genres, des sous-genres avec des codes qui sont apparus, mais à chaque fois qu'un nouveau genre arrive, c'est parce qu'il y a un mec, il a été un peu plus loin que les autres dans sa manière de créer, dans sa manière de, d'utiliser les machines, et finalement ça n'arrête pas, parce que on voit des genres comme la techno qui existe depuis très longtemps, mais qui se renouvelle en permanence. Et donc finalement, on est toujours en train d'aller chercher plus loin, d'aller pousser cette création. Et c'est ça vraiment, je pense, qui définit la musique électronique dans son essence même. C'est ceux qui vont être les personnes qui vont innover, c'est ceux qui vont prendre un genre et qui vont le tordre et qui vont te sortir un truc de ouf et qui tu vas faire waouh, mais c'est quoi ce truc là? Et ça arrive tout le temps en fait. Il y a tout le temps cette espèce de renouveau. On le voit dans des pays, hein, les pays africains, les pays asiatiques. Qui innovent par rapport à leur culture et tout. Donc, je pense que c'est un perpétuel renouveau, les musiques électroniques, et c'est vraiment ça qui m'a attiré. C'est aussi cet aspect contestataire, cette contre-culture avec la free party qui a été très forte en France. Mmh. Et tu disais la place finalement qu'elle a. Je pense qu'il y a un peu un décalage entre la popularité de la musique électronique, c'est-à-dire tout le monde en écoute, il y en a partout, et son traitement. C'est-à-dire qu'il y a encore, on est encore à la marge, quoi. On n'est pas encore intégré dans tous les circuits institutionnels. On n'est pas encore autorisé aussi facilement qu'un festival de rock ou qu'un festival d'autre chose. Donc, il y a d'un côté la France qui a été le pays le plus innovant, qui a toujours créé des trends avec la French Touch, avec tous ces gens-là. Et de l'autre côté, un besoin permanent de se battre pour exister, de se battre pour avoir une place dans l'environnement culturel. Et c'est aussi à ça que ça sert finalement ce qu'on fait, nous, hein, chez Technopole. Hein, c'est qu'à chaque fois, on est là pour rappeler qu'on existe et pour rappeler qu'on a des artistes au même titre que les autres, qu'on a des organisateurs, et que tous ces gens-là, ils doivent avoir la même attention en fait, hein, parce que sinon tu te retrouves un peu perdu dans ce truc. Les petits gars de la techno là, ils sont gentils, mais on verra plus tard quoi. Et le travail qu'on fait chez Technopole, c'est vraiment de rappeler en permanence qu'on est là, qu'on représente quelque chose d'important pour la jeunesse, et beaucoup pour la jeunesse, et encore plus aujourd'hui avec ce qu'on a vécu depuis un an. Et je pense vraiment que le travail à faire et qu'on continue à faire, c'est ce besoin d'exister dans cet univers institutionnel, et pas simplement ouais, c'est cool d'avoir un DJ en photo avec un ministre et puis après on les oublie, mais vraiment de nous considérer à part entière, parce que on a été à l'origine de beaucoup de révolutions dans les musiques électroniques. On le sera encore, je pense, mais on a aussi besoin d'être considéré, d'être accompagné comme il se doit.
C'est intéressant. Bon, on a compris là clairement quelle était la mission d'une certaine manière de Technopole. Ce constat qui est illustré d'ailleurs, j'ai vérifié derrière ce chiffre, mais vous m'avez parlé du fait que plus de 40% de l'exportation de musique française, donc qui conquiert des pays à l'étranger, c'est de la musique électronique. 40%, ce qui est un chiffre absolument hallucinant. Et effectivement, on peut se poser la question d'un éventuel décalage. On va développer ensemble, hein, d'un éventuel décalage entre la présence de cette musique dans l'univers français et son export, quoi, qui est apprécié en tout cas à l'étranger, quoi.
Bah totalement. Et je pense une des choses les plus marquantes à ce sujet-là, c'est qu'en fait sur le rock et sur le rap, quand il y a eu l'expansion de cette musique, donc le rock dans les 70 et le rap dans les années fin des années 80, il y a des radios nationales qui se sont mis à passer exclusivement ces musiques-là. Mmh. Ce n'a pas été le cas sur la musique électronique. Il n'y a aucune radio nationale qui s'est positionnée au milieu des années 90, fin des années 90, quand ça a explosé, sur l'électro, vraiment. Il y avait des émissions spé sur des radios comme Fun Radio, il y avait notamment le soir sur Fun Radio, mais il n'y avait pas de programmation exclusive musique électronique. Et du coup, c'est vrai que la radio avait un énorme impact à cette époque, hein, avant les réseaux sociaux, et ça a quand même, du coup, bloqué, je pense aussi, l'explosion de cette musique sur un mouvement beaucoup plus, tu vois, on va dire, populaire, mais sur les tranches d'âge, tu vois, éventuellement. Et je pense que c'est vraiment un des aspects clés qui est pas arrivé sur cette musique, tu vois. Et sur le rap, le rap, au milieu des années 80, c'était une niche, hein, avant que les radios se mettent à en passer.
Mais c'est marrant parce que ça serait intéressant d'aborder ça d'ailleurs un jour, pourquoi pas dans l'émission, de l'importance des radios. Et d'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui en fait un vecteur de découverte pour beaucoup de gens en France. Il y a les férus de musique, évidemment, qui ont aussi leurs propres canaux, etc.
Mais et TikTok.
Alors il y a TikTok évidemment, mais sur l'ensemble de la population, la musique, ça reste la radio, ça reste un truc assez important pour découvrir la musique.
Surtout à une époque, si tu veux, à l'époque dont on parle, donc fin des années 90, où vraiment, enfin, comment tu découvrais la musique, tu
vois, à cette époque,
le rap, je le découvrais sur Skyrock, enfin. Et donc la musique électronique, c'est devenu énorme, genre tous les groupes qu'on connaît, Daft Punk et tout, sans radio en France quand même. Faut quand même se rendre compte de ce truc là, et c'est toujours le cas en fait.
La musique électronique, ça a vraiment été un débrouille-toi pour survivre, quoi. Et donc on a dû inventer des modes de diffusion, des modes de distribution, des manières de faire nos événements, parce qu'on n'avait pas accès aux médias, on n'avait pas accès à la télé, à la radio, aux discothèques même au début. On avait du mal à organiser des événements. Donc si tu veux, tous les canaux de diffusion classiques qui permettait aux gens de découvrir de la musique, on n'y avait pas accès. Ça a commencé à se déverrouiller quand t'as eu des titres un peu plus abordables comme les Guetta, les Bob Sinclair et toute la French Touch avec R et tous ces gens-là qui ont commencé à produire des titres qui ont été un peu plus accessibles, qui faisaient des clips qui pouvaient passer sur M6. Mais en fait, ce qui caractérise nos musiques, c'est cette capacité à si tu peux pas rentrer par la porte, tu passes par la fenêtre, quoi. Et on a toujours trouvé des moyens de le faire. Et effectivement, quand on a eu Internet est arrivé, moi j'ai connu MySpace. Nous on faisait de la musique fin des années 90. Quand MySpace est arrivé, tout d'un coup, on s'est fait des potes au Japon, aux États-Unis, partout. On envoyait des boîtes de CD chez des disquaires à l'autre bout du monde. Et finalement, tout ce réseau-là, on l'a développé de façon complètement indépendante. Aujourd'hui, il y a plus d'intérêt. Mais c'est vrai que quand tu regardes sur les grandes radios d'une manière générale, ce sont les musiques un peu plus accessibles qui passent, mais t'as tout un tas de genres et de sous-genres de musique électronique qui continuent à exister, qui attirent des milliers, des dizaines de milliers de jeunes, mais qui sont présents nulle part. Pas de télé, pas de radio, rien. Donc c'est tout ce circuit alternatif qui s'est construit et qui a permis aux musiques électroniques d'exister, parce que si on avait attendu que on nous donne l'antenne... Alors, quand même, il y a eu FG, qui l'a fait, Radio FG, qui a été...
Bien sûr,
qui n'est pas national, si je ne dis pas de bêtises.
Mais c'est pas national, ouais.
C'est dans certaines villes, mais c'est pas national, et qui s'est battu pour ça. Mais effectivement, hein, il y a eu la Sky Rave à un moment sur Skyrock, avec Roscoe aussi, mais comme tu disais, Max, ce sont plutôt des émissions qui se sont faites, parce qu'il y a eu un moment, ils se sont dit, ah putain, ça peut être bien, ça peut être cool hein, de faire un truc comme ça. Mais vraiment, aujourd'hui, et puis aujourd'hui, c'est aussi une question de quotas, hein, puisque il y a des quotas de langue, de musique à texte française qui doivent être diffusés dans les radios. La musique électronique n'en fait pas partie, puisqu'on considère que il y a pas de parole, et donc finalement que c'est pas la nature du producteur qui fait la musique, mais c'est plutôt les textes qui sont dans cette musique. Et donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on bosse, et Max, il en sait quelque chose, puisqu'il s'occupe de ça chez Technopole. Mais vraiment, ça fait partie des combats, hein, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes artistes qui vont arriver, ils aient pas à galérer, en fait, comme tous les gens de notre génération, on a galéré pour exister, et que finalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la popularité de nos musiques, elle puisse permettre quand même d'avoir une meilleure attention pour développer des carrières, et que finalement, on ait accès à ces grands médias et à ces trucs-là. Alors ça se fait plus, la musique de pub et des trucs comme ça, donc il y a quand même un truc un peu, mais ça reste vraiment minoritaire par rapport à, enfin, tu vois, c'est un peu l'iceberg, hein, tu vois les mecs qui sont là, mais en dessous, t'as tout le reste, t'as tous ceux tout qui constituent l'underground, les musiques de niche, et c'est eux qui ont besoin de ce soutien pour exister, donc il y a beaucoup de taf à faire, mais on a toujours su se débrouiller, on a toujours su se trouver des solutions pour se réinventer, se transformer, et c'est aussi notre propre, hein, on lâchera rien, en fait, même si on nous ferme la porte, on trouvera toujours moyen de rentrer, quoi.
Michel, tu te rappelles, toi, tes premiers contacts avec la musique électronique, parce qu'on n'est pas de la même génération, il faut bien le dire, Michel et moi, de la vôtre. Donc je pense que c'était complètement différent. Tu te rappelles limite d'un moment marquant où tu te dis, ah, ça c'est la musique électronique, ou
Déjà, ce serait intéressant.
Est-ce que t'as la même définition aussi, limite?
Oui, voilà, c'est ça. On a tous une définition un peu intuitive de la musique électronique, mais le rap à l'heure actuelle, c'est de la musique électronique. Enfin, tout est de la musique électronique. Genre, tu vois, la plupart des trucs, là, en ce moment, moi, je suis à fond dans l'hyperpop. L'hyperpop, c'est de la musique électronique à fond, tu vois. Alors que c'est pas forcément... Si, je crois que là, on commence à se dire tout doucement, Ça, on rentre dans un style électronique, mais le trois quarts des prods de rap qui sont faits là maintenant, mais beaucoup plus, tu vois, c'est fait avec un PC, et voilà, tu vois.
C'est même fait par des producteurs de musique électronique, carrément.
Ouais,
vois,
voilà, c'est ça.
Le rap français, tu vois, que ça soit Zola, Lacrim, SCH, ils ont tous travaillé avec des mecs qui viennent de la scène techno, carrément.
Ouais, voilà, puis même un peu plus à l'ancienne, avec le 113, DJ Mehdi et tous ces trucs, tu vois.
Ça, c'est intéressant parce que c'est le cas inverse. Il y a aussi beaucoup de mecs qui viennent de la scène rap qui ensuite font de la musique électronique. Et DJ Mehdi, évidemment, l'exemple le plus brillant qu'on a eu, mais...
Écoute, alors moi j'ai pas beaucoup d'exemples justement dans ce sens-là, j'en ai dans l'autre.
Si, je pense à Parawan aussi, je pense même Guetta, si je dis pas de bêtises, il était très versé dans le hip-hop à la base avant de se mettre beaucoup
il
plus
il était DJ hip-hop, ouais. Il a produit les premières compiles de rap, ouais.
Franchement, c'est le gars de Sinclair aussi, il me semble. Enfin, il y a beaucoup de mecs en réalité qui ont quand même été des grands férus de rap, qui ensuite sont mis beaucoup à la musique électronique. Il me semble que c'est un truc.
Mais je pense qu'il y a clairement une, l'esprit que Max, Tommy évoquait tout à l'heure, ce truc de la débrouille et pour moi c'est à l'essence du rap aussi, tu vois. Donc
c'est sûr, hein, au début le rap c'était ghettoisé comme musique, comme la techno, hein, et les mecs ils se sont débrouillés et c'est devenu populaire et ils ont pu surfer dessus, mais à la base le plan c'était pas de devenir célèbre.
Et encore, on n'est pas sorti d'affaire.
Ouais. Non, c'est clair, et je pense que c'est aussi ça, hein, quand tu t'engages dans une musique comme ça, c'est d'abord parce que t'es engagé sur une manière de voir le monde, de voir la société, t'as envie d'exprimer un truc, et c'est vrai que les exutoires, quand t'écoutes les textes de rap, ils sont souvent assez durs. Quand t'écoutes la musique électronique, il y a toujours un truc aussi que t'exprimes assez fort au niveau émotionnel, et donc c'est aussi ça qui sort dans c'est le lien, hein. Ça a mis du temps quand même à communiquer, parce que moi je me souviens les textes de rap des années 90 n'étaient pas toujours très sympathiques envers les musiques électroniques, donc il y a eu un moment où c'était pas, mais très vite en fait c'est les outils qui ont lié les producteurs, et je pense qu'il y a aussi une question de son en fait. Dans la musique électronique tu cherches la puissance du son, tu cherches toujours à avoir un son qui pète, quoi, tu vois, et je pense que ça a dû attirer pas mal de producteurs de hip-hop, parce que c'est vrai qu'on avait on n'a pas la même approche en fait, on a une approche de son qui est complètement différente, et c'est vrai que Guetta il a fait des sons pour pas mal de rappeurs. Enfin, aujourd'hui c'est poreux, hein. Les deux existent ensemble, et ouais, il y a plus cette espèce d'animosité entre les milieux.
Mais il y avait aussi peut-être un truc un peu plus culturel de, entre guillemets, électro, c'est plus blanc, et puis il y avait aussi pour moi
en France.
Ouais.
Mais parce que l'histoire est.
Ouais, mais enfin après moi je pense.
La techno c'est une musique black, hein, c'est une musique noire, hein, la techno.
Oui, mais je parle de comment moi je l'ai ressenti quand mais j'étais
c'est
gamin.
C'est vrai qu'il y a aussi ce cliché de ça.
Mais ouais, pour moi il y avait aussi ce truc le cliché de la drogue, tu vois, genre la musique électronique c'était une musique de drogué, et le rap c'était à la base opposé à ce truc-là, et puis après on voit bien que les deux sont devenus un peu plus poreux, comme tu disais, Tommy. Mais sinon,
ouais,
moi,
complètement,
je crois.
Oui, c'est fait avec les mêmes machines.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis, ils prennent tous la même drogue maintenant aussi.
Oui, bah oui, déjà, tu vois. Mais pour revenir à ta question, Salman, moi, à la base, j'entends le. Je crois que vraiment la première musique électronique à laquelle je suis, exposé, c'est Around the World des Daft Punk. Et elle me saoule, cette chanson. Je la hais. Je la déteste.
Avec le clip de Gondry.
Ouais. Et ça passait, je me rappelle très bien, je suis au snack et j'entends ce truc qui tourne en boucle, et ça me rend ouf, et je me dis putain, il y a rien dans ce délire, j'ai l'impression de me faire aspirer, tu vois. Et puis après, bien plus tard, j'ai compris et je me suis mangé les Daft Punk, et je me suis mangé. Je crois que vraiment ma grosse entrée dans la musique électronique, c'était quand même Skrillex. Et après, ça m'a mené à des trucs comme Noisia, Montobin, tu vois, des trucs un petit peu plus sound designés, tu vois, des trucs comme ça.
Ouais. Skrillex qui vient du métal d'ailleurs.
Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Donc là aussi.
Il était bassiste dans un groupe.
On a parlé de ses débuts avec Toxic, qu'il a croisé à l'époque, justement, c'est marrant.
Et Skrillex, mine de rien, il a vraiment amené énormément de gens qui n'avaient rien à voir avec la musique électronique dans la musique électronique, je pense.
Ouais, Skrillex, il a fait exploser le dubstep qui existait, qui était en fait en perte de vitesse. Mais en fait, c'est les Américains qui se mettent au dubstep, quoi.
Ouais, c'est... voilà, c'est ça.
Parce que en Angleterre, c'était déjà plus trop la mode à ce moment-là. Ouais. Il est arrivé avec un son incroyable. Enfin, c'est
le corne de
la techno, quoi.
Ouais, il y avait Diplo derrière, hein, qui c'est Diplo qui a produit Skrillex. Et Skrillex, il avait ce talent de compo. Et puis Diplo, au niveau production, c'est juste un monstre, le gars. Donc, ils ont fait un son qui était un peu, qui a explosé aux États-Unis dans les générations assez jeunes. Ouais, et ça a relancé le dubstep. Et ça a effectivement créé des liens entre plein de styles de gens qui aimaient différents styles de musique. Parce que t'avais ces influences métal, un peu hip-hop, un peu dub et tout. Et franchement, ça a été une claque. Hein. Même moi, à l'époque, Skrillex, j'ai entendu ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là, quoi, tu vois?
Je crois que tout le monde s'est pris ça.
Vraiment, carrément. Ouais.
Moi, je, comme Michel, il faut leur rendre vraiment hommage. Enfin, c'est facile parce que tout le monde le sait bien. Mais ma génération, c'est Daft Punk, clairement. Mmh. Daft Punk a tellement fait pour la popularisation de la musique électronique, c'est en France. C'est
après, je pense, j'ai réfléchissais et je me disais, en même temps, je découvrais Monsieur Oiseau, Flatbeat. Ah. Et celle-là, je l'adorais par contre.
Qui, d'ailleurs, selon ses propres propos, qui est l'ancêtre du dubstep, ce track.
Oui,
carrément.
Il y a un wobble dedans, en fait.
Grave. Ah ouais, carrément. C'est le wobble même.
Ouais.
Le wobble,
donc,
c'est...
Donc, Mr. Oiseau, inventeur du dubstep.
Encore un Français, quoi, tu vois. Bah ouais, hein, c'est clair.
Bon, on a fait un gros point. J'imaginais pas qu'on s'arrêterait autant parce que sur cette première partie, mais c'était quand même intéressant de se replonger dans ces moments-là. Si, peut-être quand même, un dernier truc, c'est que on a évoqué le rapport avec le rap, les clichés, etc. Le truc étonnant quand même, c'est que le rock a connu aussi ce moment où il était en rupture, contre-culture, méprisé, etc. Et je sais pas combien de temps ça a pris, il faudrait voir avec des historiens de la musique vraiment, avec des musicologues, etc., comment ça s'est institutionnalisé petit à petit et comment c'est rentré vraiment dans les mœurs, même si d'ailleurs, dans plein de domaines encore de notre société, le rock peut être méprisé, hein. Mais en tout cas, il s'est quand même installé beaucoup plus. Et j'ai l'impression que les musiques électroniques et le rap, alors que c'est des genres qui ont plus de quasiment 50 ans aujourd'hui, voire plus, ça se passe toujours pas. Et les clichés.
C'est pas faux,
non mais sérieusement, il y a un truc, c'est surtout la temporalité en fait qui est problématique, parce que qu'au début,
l'image
et l'image et le cliché. Et typiquement, par exemple, on parlait de la drogue, c'est un truc qui reste chevillé à la musique électronique. Alors est-ce qu'il y a une part de réalité? Est-ce que c'est une musique dans laquelle réellement il y a plus de drogue qui circule? J'en sais rien. Peut-être qu'on peut en parler d'ailleurs. Mais c'est étonnant que ça reste si ancré et que ça évolue pas avec le temps.
Bah, il faut toujours trouver des arguments, et quand on en a pas, on revient toujours à ce genre de truc, hein. Le rock en a souffert aussi beaucoup. Je pense pas que statistiquement il y en ait plus. Il y en a peut-être eu plus du fait que nos événements étaient plus gros, et donc finalement quand tu rassembles plus de monde, bah forcément il y en a plus. Mais c'est pas, ça a toujours été des, ouais, c'est des clichés qui nous collent à la peau, et je pense pas que ce soit non plus aujourd'hui un argument, parce que en fait, la drogue, t'en as partout, hein. Maintenant, t'as un numéro de téléphone, tu te ferais livrer ce que tu veux chez toi, par internet, par truc, par machin.
Tu connais des applis, toi?
Écoute, non, mais, non, je pas vraiment, mais je sais que ça s'est popularisé, tout ce genre de service, parce que on vit avec beaucoup de jeunes, hein, dans notre génération, et on est toujours en prise, hein, malgré mon grand âge que j'ai, sur lequel j'ai bien insisté depuis le départ. Et on se rend compte que finalement, j'ai pas, moi, si tu veux, et en plus, c'est même peut-être une tendance qui s'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de montrer que la musique électronique ne nécessite pas forcément de produits, de trucs et de machins pour la vivre. Et t'as cette espèce de mouvement de gens qui ont envie de dire, moi je fais la fête sans me droguer, sans boire, parce que c'est une, bah, comme Max par exemple, hein, c'est une réalité aussi.
On trouve ça dans le punk aussi d'ailleurs. Il y a eu toute une
le straight edge,
absolument, ouais. Toute une réaction.
Pas carrément. Disant, mais je pense que c'est important aussi
cato,
de le souligner, parce que c'est vrai que le cliché, ça fait partie des choses qui nous ont desservi énormément dans les années 90, parce que les médias se sont engouffrés là-dedans en mode, oh regardez, les drogués arrivent à côté de chez vous. Et finalement, on nous a fermé énormément de portes à cause de ça, alors que c'est pas une réalité plus forte. Et je dirais même qu'on a toujours été très attentif à ça, parce qu'il y a toujours eu des associations qui ont fait de la prévention, de la réduction des risques, dès les années 2000, même à un moment où c'était interdit, puisque informer sur les produits stupéfiants, c'était considéré comme du prosélytisme. Donc il y a des gens qui distribuaient des flyers pour dire si tu te drogues, fais attention, toutes ces choses-là. Donc on a toujours eu cette conscience d'accompagner notre public, ce qui n'était pas toujours le cas dans d'autres environnements. Donc je pense que ça, on a toujours pris le sujet très sérieusement, contrairement aux caricatures que les gens ont voulu montrer. Et même si ça fait partie de notre culture, ça fait surtout partie de la société. Et je pense que cette société, elle doit se soucier de cette problématique. Et nous, on s'en soucie, on accompagne, on fait de la prévention, on teste les drogues, on a des chill-out pour les gens qui se sentent pas bien. Donc on a vraiment tout un dispositif qu'on met en place que tu retrouves pas partout. Parce que souvent on nie le truc, genre non chez nous ça existe pas. Nous on sait que ça existe, on prend le truc en main. Totalement. Et on fait en sorte que les gens le vivent au mieux, parce qu'on notre public on y tient, c'est important pour nous. Donc on mesure les risques et on y apporte une réponse. Et c'est vrai que ça fait partie des actions que les associations mènent sur le terrain, qui sont présentes dans les événements tous les week-ends, qui accompagnent les gens. Et c'est un propre de nos musiques. Et finalement, c'est l'effet inverse que ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité par rapport à ça. On la connaît. Et plutôt que de se voiler la face, plutôt que de retrouver des gens drogués au coin de la rue qui sont vifs et vidés d'une discothèque ou d'une soirée parce qu'on veut pas en entendre parler, nous on en entend parler, nous on leur vient en aide, on les accompagne. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a très peu d'accidents dans les musiques électroniques, parce que justement on a cette conscience et qu'on a voulu prendre le problème à bras le corps pour pas se voiler la face. Parce que quand on est dans le milieu de la nuit et de la fête, d'une manière générale, ça existe, et mieux vaut appréhender le truc, accompagner les gens, faire en sorte que s'ils veulent se droguer, ils le fassent bien, ils le fassent dans des bonnes conditions et qu'ils puissent rentrer chez eux en sécurité, parce que c'est ça qui nous importe. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui avec lequel on plaisante pas, en fait, quoi. On en est conscient, on accompagne les gens et on fait en sorte que ça se passe au mieux, et on sort de ces clichés caricaturaux où on est tous en train de se vomir dessus à la fin de la soirée. Voilà, tu vois, c'est des trucs, c'est voilà, on est un peu voilà, moi je réagis un peu comme ça, parce que c'est vrai que c'est des trucs qui nous ont été opposés pendant longtemps et qui nous ont empêchés d'avancer. Donc maintenant, on leur dit, ta gueule, on sait gérer le problème, nous.
Ok, écoutez, merci pour cette première partie, ce petit tour un peu autour des musiques électroniques de manière générale. Là, j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le cœur du sujet, et notamment avec le point parmi vos activités qui, voilà, je le disais en introduction, qui, moi, m'intrigue le plus, parce que c'est un aspect dont on n'a jamais parlé dans l'émission, et dont on parle d'ailleurs, je trouve, assez peu de manière générale. C'est l'action politique dans le monde de la musique. Là, on a bien compris comment vos enjeux, hein, comment vous cherchez à défendre la musique électronique, etc. D'ailleurs, le dernier sujet à propos des drogues, on voit aussi que c'est profondément politique. Et d'ailleurs, on pourrait discuter de l'actualité en ce moment. Enfin bref, on voit bien qu'il y a des liens multiples à faire entre la musique et l'action politique et les pouvoirs publics, même de manière générale. Mais justement, pour vous, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de faire appel aux politiques, aux pouvoirs publics à un moment quand on veut œuvrer pour la musique en France, même au-delà des musiques électroniques? Pourquoi c'est des acteurs importants? On doit discuter avec eux.
Il y a un contrôle, enfin, il y a une intervention des politiques qui est permanente. Donc déjà, il faut qu'ils nous connaissent, il faut qu'ils sachent à qui ils s'adressent, c'est eux qui prennent les décisions. Donc il faut qu'on puisse influer sur ces décisions.
Quel genre de décision concrètement?
Toutes les lois qui existent pour encadrer les événements, toutes les règles, les aides et les accompagnements qui vont être donnés aux artistes, aux événements, aux festivals. Si tu sais pas à qui tu as affaire, bah finalement tu n'as pas confiance. Donc la première chose qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est redonner confiance. Donc on essaye de les rencontrer, de leur expliquer ce qu'on fait, de leur montrer que finalement nos artistes, nos festivals, nos événements travaillent de la même manière que tous les autres, payent les mêmes taxes, mettent en place les mêmes contraintes réglementaires pour accueillir du public, parce qu'en France, quand même, quand on organise un événement, c'est une galère. Enfin, faut vraiment avoir envie de le faire, hein. Faut avoir bac plus 12 en plein de trucs, parce que sinon tu y arrives pas. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'éduquer les politiques, d'éduquer les institutions, de leur donner les outils pour nous comprendre et de faire le lien entre eux et notre écosystème pour bien leur faire comprendre nos besoins, de quoi on a besoin, comment il faut qu'on travaille ensemble et de quelle reconnaissance on a besoin. Et on parle de politique, mais c'est plus les institutions, parce que tu vois, on passe pas notre temps avec les ministres et on passe pas notre temps à l'Assemblée nationale comme font la plupart des organisations de lobby, on parle beaucoup avec ce qu'on appelle les techniciens. Hein, ce sont des gens qui interviennent justement sur ces questions de législation, ces questions d'accompagnement, qui font en sorte que les subventions soient adaptées aux différents acteurs culturels. Et donc nous, vraiment, notre boulot, c'est ça. C'est de dire, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, voilà à quoi on ressemble. On a des casquettes, des t-shirts, des trucs quand on y va. On met pas de costard. On s'est pris ça d'ailleurs une fois. Un mec qui nous a dit dis donc les gars, vous pensez pas que vous seriez mieux entendu par les politiques si vous mettiez des costards et que vous faisiez des présentations PowerPoint? En fait, on n'était pas certain du truc, quoi. Et finalement, c'est aussi notre singularité qui fait qu'on est reconnu et entendu, parce que ça fait partie de notre identité. Mais c'est vraiment ça, hein. c'est de l'éducation, c'est du travail au corps, on va dire, hein, pour se faire comprendre. Et surtout, nous, ce qui nous préoccupe, c'est pas tant qu'on se prenne une tape sur l'épaule de la part d'un élu, d'un ministre ou de quelqu'un. C'est que quand il va y avoir des décisions qui vont être prises pour qu'il y ait des aides, des accompagnements, une prise en compte des artistes, une prise en compte des festivals, que nous, on soit bien dans cette équation-là et qu'on puisse bénéficier des mêmes aides et des mêmes accompagnements à partir du moment où on s'acquitte des mêmes contraintes, et notamment qu'on paye toutes les taxes et qu'on fait les choses dans le cadre qui nous est imposé.
Mmh. Max, comment ça se passe le... Alors, j'imagine que vous avez aujourd'hui créé un réseau, mais c'est quoi? On débarque au ministère de la Culture? On débarque à la mairie de Paris si c'est à Paris? Comment ça se passe? Est-ce que tout de suite on est écouté? Est-ce que le politique, il assume de dire oui, j'ai besoin des acteurs, ou est-ce qu'il faut s'imposer?
Déjà, Technopole existe depuis pas mal d'années, donc a créé ce lien et est identifié comme un interlocuteur depuis beaucoup d'années, donc on bénéficie de cet héritage, tu vois, aujourd'hui, et on n'arrive pas, ils savent pas qui on est, ils connaissent cette association. C'est vrai que depuis bientôt 3 ans, le CA, il y a eu un nouveau CA qui a été reformé avec une nouvelle équipe, et c'est vrai qu'il y a plein d'actions qui ont été menées depuis, et non, on arrive toujours pour réagir sur des sujets. Alors on a été très présent là suite à la crise sanitaire, parce que les premiers qui se sont arrêtés, c'est les boîtes de nuit et les événements le 14 mars, et on n'a toujours pas rouvert, tu vois, donc et a priori ça va être les derniers à rouvrir. Donc on a très vite on s'est dit OK, soit on reste comme ça, soit on s'unit et on œuvre un peu pour la scène. Donc on a créé ce mouvement un peu qui vient d'un groupe WhatsApp qui s'appelle la Sphère Électronique, qui a été créé par plusieurs personnes, qui n'a pas d'identité propre, mais qui a réuni plus de 250 professionnels, artistes, agents, tout confondu, pour justement qu'on se fasse circuler les infos et qu'on crée des groupes de travail. Et donc assez vite, nous on a fait remonter ces choses-là auprès du ministère. Donc quand il y a eu, tu vois, des trucs très concrets de type des aides pour les jeunes intermittents, ou qu'il y avait des dossiers de subventions à monter pour les entreprises du spectacle, nous on a décidé d'intervenir pour rappeler les spécificités liées à notre activité, puisque faut rappeler que sur les musiques actuelles aujourd'hui, généralement toutes les salles de concert classiques partout en région, elle ferme à 11h30, tu vois, 23h, et encore, tu vois, des fois c'est même plus tôt. Nous, c'est l'heure à laquelle on ouvre, tu vois. Donc c'est, déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La nuit, tout le monde vit la nuit. La nuit, ça fait partie de la vie des gens. Donc il faut pas diaboliser la nuit, il faut pas essayer de la faire comme si elle n'existait pas. Il se passe des choses la nuit, et la musique électronique, on l'a rappelé depuis le début, ça fait partie de la culture. Tu vois, les artistes, comme tu l'as répété, 40% de l'export, c'est la culture française. Quand tu parles à un jeune aux États-Unis de la musique française, il te dit DJ Snake, hein, il va pas te dire les jeunes artistes, les jeunes chanteurs, il va même pas te dire les rappeurs français, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on montre qu'on existe, et donc c'est souvent sur des réactions à chaud. Et voilà, bien entendu, c'est pas forcément tout le temps facile. Des fois, ça nécessite plusieurs rendez-vous. Mais si tu veux, maintenant, cette musique, comme on l'a dit, elle existe depuis longtemps. Et en fait, il y a des grands professionnels maintenant dans cette musique, tu vois. Des gens qui gèrent des boîtes, qui sont artistes, voilà, qui connaissent par cœur le système français. Et même des fois, peut-être un peu plus malin, puisqu'on est une musique qui a toujours su s'adapter malgré toutes les répressions qu'il y a eu. On a toujours trouvé le truc pour continuer. Tu vois ce que je veux dire? Et à continuer à exister malgré toutes les lois qui ont été mises en place à partir de 2002 pour contrôler les free parties. Et ça a toujours continué, en fait. Donc, on sait s'adapter. Et je pense que cette faculté d'adaptation, là, sur le confinement, elle a été importante, tu vois, et sur une écoute de la part des politiciens qui avaient besoin aussi, tu vois, d'avoir un retour d'expérience, quoi.
Ouais, puis on avait le temps aussi de pas les lâcher. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un truc qui était peut-être le seul point bénéfique, hein, c'est qu'on a pu prendre du recul par rapport à tout ça. Et qu'on a pu vraiment prendre le temps de rencontrer toutes les interlocutrices et tous les interlocuteurs nécessaires pour bien faire comprendre nos spécificités, notre importance. Et c'est vrai que depuis un an, on a encore plus de relations avec le ministère de la Culture, avec les instances comme le Centre National de la Musique, la Ville de Paris. Enfin, donc c'est vraiment, on sent que finalement, peut-être que cette période aura été bénéfique pour faire reconnaître les musiques électroniques. Et en tout cas, maintenant, ils savent qu'on les lâchera pas si jamais on doit se faire entendre. Donc, on a cette écoute aussi. Et on espère que ça va nous permettre de reprendre sur des bases un peu plus solides et que nos professionnels vont pouvoir être accompagnés comme il faut aujourd'hui, demain. Et surtout, si jamais demain, il y a une crise comme celle-ci, on mettra moins de temps à se faire entendre. Et on sera certain que tout le monde pourra être mieux aidé.
Est-ce que il y a des changements ? Est-ce que vous ressentez des changements en fonction des directions politiques ? C'est-à-dire, si on prend, alors il y a l'échelle locale, territoriale, il y a l'échelle nationale, etc. Pour prendre un truc un peu plus direct avec à l'échelle territoriale, locale, une mairie, par exemple, ça change de bord politique. Ça se ressent, ou même juste de personne, ça complique les affaires, ça peut jouer sur les politiques publiques culturelles de plus avoir les mêmes interlocuteurs.
Faut être malin en fait, c'est-à-dire nous on n'a jamais affiché une couleur politique à gauche, à droite, au milieu. Bon, évidemment les extrêmes on évite et je pense que c'est normal pour tout le monde, mais nous comme on est on défend une culture. La culture, elle a pas de couleur politique. Elle existera qui est la gauche ou qui est la droite. Donc, on essaie évidemment d'exister par là, avec toutes les couleurs politiques qui peuvent être là. Hein. C'est vrai que on a vécu, enfin, Technopole à 25 ans. Il y a eu différentes couleurs politiques au pouvoir.
Les programmes culturels sont pas les mêmes quand même. Franchement, en fonction des programmes politiques, en fonction des orientations politiques.
Si tu veux, ça dépend des hommes et des femmes, en fait, beaucoup. On peut pas résumer ça à une couleur politique quand on parle de culture, puisque généralement, les gens qui s'occupent de la culture sont des gens qui sont passionnés par le sujet. Et donc, on n'est plus au moment où on va dire « la techno, c'est pas bien ». Nous, on l'a vécu avec Technopole au début des années 2000. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient interdits, et dans les arrêtés, c'était musique électronique. On a fait quelques procès, on en a gagné. Notamment sur la ville d'Avignon et quelques autres collectivités. Et donc, il y a une jurisprudence. Donc, il n'y a plus cette discrimination. Donc, déjà, on a passé ce sujet-là. Ensuite, évidemment, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas la musique électronique, bah, peut-être que tu auras moins d'écoute, mais on n'a pas ressenti ça. Hein. Technopole, je ne sais plus quand c'était, hein, je crois que c'était sous Renaud Donnieu de Vabre, qui était ministre de la Culture, je crois que c'était sous Sarko. Et ben ils ont organisé une teuf au ministère de la Culture. Et c'était pas la gauche qui l'a organisé. Donc si tu veux, il y a toujours un truc. Je pense qu'il faut vraiment, la culture c'est particulier. C'est un truc hyper, c'est de la sensibilité humaine. T'aimes l'opéra, t'aimes la peinture, t'aimes la sculpture. Donc tu peux pas, quand t'es face à des gens qui défendent finalement, on défend pas des intérêts économiques quand on va les voir. On défend une culture, on défend un mode d'expression, on défend un mode d'expression d'une émotion, d'un sentiment. Alors ils peuvent dire, oui, je comprends pas la musique électronique, c'est chelou, ça fait boum boum. Certes, mais derrière, ils peuvent pas nier que c'est des artistes, des créateurs, des gens qui investissent du temps, de l'énergie pour créer des œuvres. Et donc, on a autant le droit d'exister dans leur politique culturelle qu'ailleurs. On a effectivement eu des gros problèmes quand certaines mairies ont passé au Front National, par exemple. Là, ouais. On a senti, là, ça rigole plus. Et donc, on a dû intervenir. Il y a des festivals qui se sont déplacés de ville parce qu'ils pouvaient pas accepter ça. Donc, il y a effectivement là, il y a un engagement politique à avoir parce qu'on peut pas tout accepter. Mais bon, gauche, droite, finalement, du moment que les humains sont des gens passionnés de culture, ça va fonctionner, en fait. Alors, différemment, il y a peut-être une approche plus économique, de l'autre côté une approche plus sociale, une approche un peu plus dure, comme ci ou comme ça. Donc il faut s'adapter, il faut comprendre. Mais on essaye, nous, de passer un peu entre ces trucs où il faut s'engager politiquement et tout, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que cette culture, elle existe, qu'elle se diffuse. Et évidemment, on a des valeurs et on va privilégier la création, le lien social, l'inclusion, la diversité, plutôt que la rentabilité, le chiffre d'affaires, le truc et le machin. Donc, on nous dira, vous êtes plutôt à gauche qu'à droite. Mais bon, finalement, nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois défendre nos artistes, notre expression, notre culture. Et on le fera avec qui on a en face de nous. Sauf si on a des gens un peu trop extrêmes. Dans ce cas-là, il faudra qu'on reprenne le maquis, qu'on refasse des soirées illégales. Mais pour l'instant, heureusement, on n'a pas eu à y faire face et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est vrai que on n'a pas eu, tu vois, quand la région Île-de-France a changé de couleur politique, il n'y a pas eu une rupture de négociation, de discussion ou quoi que ce soit. On a dû remontrer qu'on est, voilà, de rencontrer des nouveaux interlocuteurs et des nouvelles interlocutrices, refaire le taf. Mais c'était pas genre un rejet total de notre existence. Et même là, on a eu des discussions avec les équipes de Pécresse récemment et ils voulaient sauver les DJ, tu vois. Donc, on peut avoir des surprises de.
Je vois déjà le tract Pécresse, sauver les DJ.
Bah écoute,
save the DJ.
Donc c'est vraiment, je pense, sauf extrême où là t'as un choix éthique à faire, hein, tu vois. Je veux dire, on peut discuter avec tout le monde, mais pas avec n'importe qui.
Puis je sais pas s'ils veulent de vous surtout.
Hein. C'est joliment dit.
Je pense pas que ça va fitter, ouais.
C'est marrant parce qu'on imagine, c'est vrai, beaucoup de. Quand on n'est pas de l'intérieur, des changements qui peuvent être radicaux ou une forme d'opacité, etc. Sauf qu'effectivement, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une forme de bonne intelligence, de continuité qui peut se créer, etc. Et d'interlocuteurs qui sont là quand même pour discuter parce qu'ils aiment la culture avant tout, quoi.
Si tu connais tes sujets, hein, faut connaître tes sujets. Faut les connaître vraiment très bien.
faut maîtriser les sujets, c'est clair. Et
comment ça se passe le... Pardon, je t'interromps, mais...
Je t'en prie.
Max, par exemple... Comment ça se passe quand tu dois rendre, est-ce que ça passe par des rapports, tu dois écrire un rapport, comment l'échange se fait, comment le lien se fait, est-ce que c'est on se pointe, alors je sais peut-être que d'ailleurs peut-être que Tommy maîtrise mieux ces questions, je sais pas si parfois toi aussi tu participes à ça, mais
Si, je fais quelques rendez-vous, c'est toujours des prises de rendez-vous et puis oui après nous on garde des récapitulatifs de tout ça, mais ça se fait quand même, on se rencontre, hein, y a un moment...
Mais on vous commande parfois des rapports, par exemple, d'avoir
un... Là, on va travailler sur une étude, oui, sur les musiques électroniques, c'est en discussion, là, d'une étude, justement, pour, avoir des chiffres un peu, parce qu'on est une musique où on n'a pas beaucoup, justement, d'études de chiffres concrets, tu vois, sur vraiment ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'événements, en termes de nombre d'artistes. Et c'est un travail que on a lancé là depuis quelques temps justement. On a déjà lancé un grand référencement sur les artistes électroniques dans toute la France. On a eu énormément de réponses, et puis on a aussi lancé plusieurs questionnaires pendant le confinement auprès des entreprises, auprès des associations, des labels, pour voir combien aussi ils avaient perdu, tu vois, sur cette crise, comment ils étaient affectés, aussi avoir des chiffres, tu vois, sur les artistes aujourd'hui. On a le statut d'intermittent du spectacle qui est le seul statut légal pour payer un artiste aujourd'hui sur une date. On s'est rendu compte que beaucoup de jeunes artistes n'avaient pas ce statut, par exemple, et se retrouvaient du coup hors la loi. Donc on est sur une question, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la drogue l'autre jour, au début du talk, c'est-à-dire que est-ce qu'on se cache les yeux, on fait comme si ça n'existait pas, ou on se dit que ça existe et on essaie de trouver des solutions pour accompagner ces artistes en devenir qui sont peut-être les futurs Daft Punk de demain, tu vois, et qui se retrouvent aujourd'hui à être dans l'illégalité parce que c'est un système qui est génial, l'intermittence, mais peut-être que sur les jeunes artistes, il faudrait réfléchir à quelque chose d'adapté pour la première année, tu vois, où ils se lancent et les accompagner sur une professionnalisation, tu vois.
Et quand il y a un truc qui est décidé, qui vous paraît aberrant ou en tout cas contre-productif par rapport aux objectifs que vous défendez, comment on proteste? Comment vous gueulez? Parce que moi, je dirais, il y a les manifs, les grèves, quand t'es salarié dans le cadre du travail. Vous, c'est un peu différent. Comment on dit c'est pas acceptable et essayer de faire contrepoids, quoi?
On a la technoparade déjà.
Okay.
Donc c'est un moment où on prend la parole Et puisque t'as 400 000 jeunes qui sont dans la rue, même s'ils sont là pour faire la fête pour beaucoup, il y a quand même une forte attention des médias et là on peut faire passer des messages. Mmh. Bah, en fait, généralement, quand il y a un truc qui nous qu'on n'accepte pas, on voit déjà qui ça affecte. Est-ce que ça affecte que les musiques électroniques? Est-ce que ça affecte la culture dans son intégralité? Et on a eu pas mal d'actions jointes avec d'autres organisations, d'autres syndicats, parce que en fait, t'as pas énormément de moyens. Donc, généralement, c'est on écrit une tribune dans un magazine, qu'on signe avec plein de gens, des artistes, des réseaux, on prend la parole dans les médias, puis on va les voir surtout, puis on leur dit bah c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez fait ça en fait. Là par exemple t'as un truc sur le sujet de la copie privée, avec effectivement une remise en question de la copie privée. Alors j'ai pas exactement tout suivi, donc je vais pas rentrer dans le débat technique, mais copie privée qui est reversée à des organisations comme la SACEM, qui permet de financer les artistes, qui permet de financer des actions culturelles, qui aujourd'hui est remise en question sur la question, je crois, du recyclage des produits, et donc qui est menacée.
À la revente qui est à nouveau.
Ouais, exactement. Voilà. Et là, tout le monde
sur les téléphones portables.
C'est ça. Et donc tout le monde se mobilise pour aller à l'encontre de ça. Donc c'est vraiment, en fait, on prend la parole par les moyens qu'on a, généralement les médias. Nous, on a la chance d'avoir la Technoparade, donc ça nous, c'est une plateforme aussi, mais c'est pas le seul moment où on va se mobiliser et on essaye, en fait. Sinon, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est qu'on contacte les députés, on contacte les sénateurs en direct, on trouve des groupes parlementaires qui sont à l'écoute de ce qu'on fait et qui peuvent porter les sujets. Enfin voilà, c'est vraiment là c'est ce qu'on pourrait assimiler à du lobby, même si encore une fois nous la première chose qu'on défend ce sont les intérêts de nos acteurs au niveau de la culture et de leur capacité à exister, à s'exprimer, avant de défendre des intérêts économiques. Et on est bien loin du cabinet de lobbying à Bruxelles qui a des centaines de milliers d'euros de budget pour inonder les médias sociaux, acheter à manger dans des restaurants 4 étoiles aux députés européens pour faire changer les lois. Et je pense que le mot lobby est pas toujours péjoratif, c'est juste on est là pour défendre les gens et on y mettra tous les moyens qu'on peut. C'est pas toujours facile, et c'est vrai que des fois, quand on nous voit arriver avec nos casquettes et nos baskets, on dit c'est qui ces gens, mais ils voient qu'on sait parler, qu'on sait s'exprimer, qu'on maîtrise nos sujets, et que c'est pas, on ne peut pas pouvoir balayer le truc d'un revers de main. Et souvent, c'est là qu'on nous prend en sérieux aussi, parce qu'on se rend compte que, bien qu'on ait notre identité propre, on maîtrise les mêmes sujets, on parle le même langage, et finalement, tu peux pas nous la faire à l'envers en nous disant « oui, mais vous comprenez rien ». Bah si, on comprend bien les choses, on sait exactement comment on est concerné par tous ces sujets-là et comment y répondre. Et finalement, on arrive à... Quand on se mobilise bien tous ensemble, et ça, ça a été beaucoup le cas cette dernière année, on arrive à faire bouger les choses.
Et une autre part importante de vos activités, c'est l'organisation d'événements. Vous avez notamment créé la Technoparade en 98, comme je le disais tout à l'heure. C'est quand même un événement majeur. Organiser des événements, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen de s'adresser directement à la population?
Ouais, c'est la sève de notre mouvement, hein. Tu vois, c'est que aujourd'hui, ça représente une grande part de la jeunesse. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve. C'est là où cette musique s'exprime le mieux. Il n'y a pas meilleure page de pub pour un track d'électro que le jouer dans un club par un DJ. Parce que tu le kiffes, tu vas faire une story avec, tu vas t'en rappeler. Puis après, quand il va être rejoué, tu vas te rappeler ce moment. C'est hyper proustien. Enfin, il y a un truc qui est vraiment fort et qui existe que dans ces moments-là. Donc, oui, les événements, c'est une part obligatoire même, tu vois, de notre mouvement.
Bah oui, surtout que c'est assez lié à la culture de manière générale, quoi. Enfin, je veux dire, la musique électronique, ça dépend. Tu peux arguer que typiquement du Hammond Tobin et encore, tu vois, ça va s'écouter plus chez soi. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a un côté festif.
Ça dépend quel morceau d'Hammond Tobin, hein, ouais. Parce qu'il y a des trucs, moi, je me lève et je danse direct, hein, tu vois, genre,
c'est vrai, c'est juste.
Après, tu vois, on a un truc qui est un peu unique dans notre genre musical, c'est qu'on a des artistes qui vont faire très peu d'écoutes en streaming.
Ouais.
Mais qui vont remplir des énormes salles à travers le monde entier.
Ouais, ouais.
Il y a peu de genres musicaux qui ont ça, tu vois. Généralement, le succès stream est le miroir du succès du nombre de billets qu'ils vendent. En musique électro, c'est pas du tout le cas. Je peux te citer vraiment plein d'artistes et tu regarderas leurs chiffres de stream et ils remplissent des zéniths sans problème, tu vois.
Okay, bah, par exemple.
Bah, par exemple, je te dis, Amon Tobin va voir un peu ses streams. C'est pas forcément les plus gros chiffres que tu peux avoir en tête. Je pense à des artistes comme les Govels. Je pense à des artistes, tu vois, comme des artistes peut-être comme One Point Trick Saver, tu vois, qui aujourd'hui est très gros, mais il y a quelques années, et qui aujourd'hui, tu vois, qui remplit des très grosses salles sur ouais. des genres musicaux un peu plus pointus, tu vois, Alvan Otto, c'est un artiste qui joue dans des très grandes salles aussi, tu vois, qui est un artiste qui fait de la musique très très plutôt ambiante, plutôt XP. Donc on a, tu vois, et même dans la techno dite un peu dure, tu vois, je vois chez nous des artistes un peu à la mode et tout, comme Antigone et tout, qui ont pas des énormes chiffres de vues, mais pourtant qui tournent dans le monde entier.
Ouais.
Mais c'est intéressant, ça, cette... J'ai pas assez réfléchi à la question, donc je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'on peut interroger la corrélation entre écoute, chiffre d'écoute et concert. Parce que historiquement, les gros vendeurs faisaient les grosses tournées, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas seulement dans la musique électronique qu'il y a de plus en plus un décalage avec des artistes qui fondent leur modèle économique et le rapport à leur public avec la tournée, et d'autres à travers la communication, le web, le streaming, etc. Et de plus en plus, je trouve qu'il y a une forme de deux cultures qui se séparent petit à petit entre l'artiste qui n'est pas un artiste live, alors qu'avant c'était presque un passage obligé. Et de l'autre côté, l'artiste qui est avant tout un artiste live, quoi. Alors c'est pas aussi noir et blanc que ça, évidemment, hein, mais il y a quand même ce petit décalage qui se fait de plus en plus, un peu à l'encontre de ce qui se faisait auparavant, j'ai l'impression. Bon,
y a surtout un truc en fait qui est que cette musique, elle y a pas eu de, si tu veux, elle s'est pas construite sur le streaming, en fait. Il y a pas eu de grande explosion de la musique électronique sur le streaming. Et c'est pour ça que quand tu regardes des DSP comme Spotify ou Apple Music, il n'y a pas beaucoup de playlists musique électronique en fait, et elles sont souvent pas hyper bien alimentées. C'est en train de changer parce qu'il y a une scène de plus en plus florissante, et notamment en France, il y a une scène qui commence à s'exporter, qui commence à faire des vues, tu vois, et puis en plus qui lorgne un peu vers la pop. Donc je pense que ça va changer, mais par rapport au rap, tu vois, qui a vraiment toute cette scène rap d'aujourd'hui, c'est à exploser grâce au streaming. En même temps, c'est des choses qui se sont répondues. La musique électronique, il y a 4-5 ans, c'était de la musique très très spé. On était vachement tourné vers Berlin, on regardait beaucoup ce qui se faisait là-bas. La musique française était aussi beaucoup influencée par cette musique-là, et c'est vrai que c'est une musique voilà, où des plages qui durent 8 minutes, tu vois, c'est avec des longues intros, donc c'est pas forcément des choses qui se prêtent énormément, on va dire, au marketing, tu vois. C'est de la musique qui est pas vraiment marketable, en fait. Et c'est vrai que depuis peu... Ouais.
J'allais dire, même si un mec comme Paul Kalkbrenner, il a réussi vraiment à mélanger et à devenir une figure, et à la fois forte en termes de communication, de marketing, etc. Et en restant quand même dans l'esprit très berlinois. Mais c'est peut-être une anomalie d'ailleurs.
Exactement, exactement. Et donc, et depuis peu, c'est vrai qu'on a toute une scène plus dure qui a repris un peu les codes, on va dire, de la art techno française, tu vois, pour moi, et qui s'est réapproprié un peu ce truc-là, et même des musiques un peu qu'on disait à l'époque un peu diabolisées, comme le hardcore, le gabber, tu vois, qui aujourd'hui, on retrouve ces codes-là dans des choses de beaucoup plus pop. Et je pense que ça, c'est aussi des choses issues de notre histoire à nous, tu vois, parce que nous, on a, en France, ça a été très populaire, ces musiques-là. Et donc, je pense qu'on va avoir là, dans les années à venir, voilà, des hits mondiales, comme tu parles de Kalkbrenner. Ça va arriver parce qu'on a des producteurs de talent qui, du coup, créent leur son qui est un peu unique, en fait.
T'allais dire un truc, Tommy?
Bah, j'allais dire que oui, une des raisons aussi, c'est que la musique électronique, c'est une musique qui se vit, en fait. Qui se vit physiquement, quoi, tu vois. Quand tu écoutes du hip-hop en stream, tu prêtes beaucoup attention au texte. Et donc ça, voilà, le rock pareil.
Ça dépend, on n'a pas tous ce rapport au rap et au hip-hop, ouais, le texte.
Ouais, alors moi,
il y a aussi la culture du sound system, la culture du...
Ouais, mais alors le sound system, c'est différent, c'est la raga, quoi, tu vois. Moi, c'est vrai que quand j'ai découvert le sound system raga, c'était ce truc-là, mais moi, j'ai toujours eu un contact assez physique avec la musique, et c'est vrai que ce qui m'a fasciné dans la musique électronique, c'est ça, c'est-à-dire que l'expérience d'écoute que tu vas avoir chez toi, ok, et sur les trucs comme Amon Tobin, les trucs de Aphex Twin et tout, tu peux dire, ok, mais même ça, quand tu l'écoutes en vrai, tu te rends compte de la puissance de la musique, en fait. Et y a rien qui remplacera ça, je pense, aujourd'hui. Et donc, cette musique, elle s'est construite sur les raves, sur la scène, et sur ce lien physique, finalement, que tu as avec la musique, dans une certaine mesure aussi dans le hip-hop. Mais vraiment, la musique électronique, c'est une musique de danse, et c'est une musique physique que tu ressens.
Mais en tout cas, c'est sûr que, enfin, moi, c'est une expérience personnelle qui m'a marqué de ouf. C'est que moi, j'ai un pote qui s'appelle Jassidorex, qui fait de ce que lui appelle de l'acide corps.
Je connais bien celui-là.
Ah ouais, c'est vrai.
Ce serait pas, il serait pas chez
toi,
Max. Figure-toi,
donc.
Let's go. Ah ben,
bon manager, donc.
Let's go. Mais c'est un très bon pote à moi qui habite à deux rues d'ici. Et
ah bah tu lui passeras le bonjour.
Ah, je lui passerai la salade de loukoum.
D'ailleurs, invitez-le la prochaine fois. Il est très cool. Hein.
Le manager qui ne perd pas le nord, comme ça.
En vrai, en plus c'est un beau parleur. Ah. Et du coup, j'avais fait de la musique avec lui et je connaissais pas du tout ce style-là et je me suis enfermé avec lui pendant toute une nuit et on a fait de l'acide, tu vois. Et ce truc-là, ben genre c'est vraiment. En passant beaucoup de temps à vraiment ressentir physiquement la musique avec lui, que j'ai capté ce qu'il faisait, ce style, tu vois. Et c'était une approche... Enfin, moi, ça a pas mal changé ma vision de la musique de manière générale, tu vois. C'est que, pour moi, c'est vraiment ça que j'ai compris sur ce moment-là. C'est de la musique physique. C'est de la musique qui agit sur ton corps et que tu dois ressentir vraiment dans ton corps. Et je pense que c'est ça, pour le coup, c'est pas propre à la musique électronique. Par contre, je pense que pour certains styles de musique électronique, typiquement l'acidcore ou même la techno, la house, c'est ce genre de truc. Je pense que c'est pratiquement indispensable d'avoir un rapport corporel à la musique pour aimer ce genre de style, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que moi j'ai mis longtemps à apprécier, parce que j'avais un rapport plus mental, intellectuel, ce que tu veux, tu vois. Un rapport plus dans la tête avec la musique.
Et en même temps, il y avait plein de styles de musique électronique. Tu parlais de Noisia, etc., que t'adorais sans avoir cette expérience corporelle dont tu parlais.
Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que, en fait, j'avais toujours ce rapport à la musique de, putain, comment ils ont fait? Parce que moi, c'était ça, la musique que je kiffais, c'était une musique qui mettait une tarte et où je comprenais pas ce qu'ils avaient fait, tu vois. Si je comprenais comment c'était fait, ça m'intéressait moins. Cette expérience-là avec Jassidorex, ça a pas mal changé mon rapport à ce truc-là. Et du coup, je raisonne pas mal avec ce que dit Tommy sur ce truc de la physicalité de certains styles de musique électronique. En tout cas, ça me parle.
Et les gars, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc derrière tout ça? On parle de l'expérience live, du physique, du corporel, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi dans l'ADN un peu de la musique électronique, l'aspect festif, tout simplement, de se retrouver? Et de faire la fête ensemble.
Complètement, c'est la communion. C'est même un truc un peu mystique, quoi, tu vois, ouais, quand t'es sur un dance floor et que tout le monde est là et danse en même temps et tu sens que cette tension monte auprès de tout le monde, là. Enfin, c'est sûr, hein. Donc, ça fait partie de l'expérience et il faut la vivre pour comprendre. Et c'est ce que tu dis, effectivement, tant que tu l'as pas ressenti, et même dans des trucs un peu plus complexes, enfin, hein, tu vois, moi, les claques de Noisia, de Amon Tobin, je l'avais vu à l'Olympia, putain, sa musique, en vrai, ça te met une baffe, mais genre, t'entends pas la moitié quand t'es sur des petits sons, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le lien, il est là et c'est inséparable, quoi, tu vois, cette expérience physique, tant que tu l'as pas vécu, tu comprendras pas complètement ce qu'on expérimente dans les musiques électroniques.
Il y a une chose aussi différente par rapport au rock et aux musiques dites de concert, c'est que en fait le show dans un club, il est dans la salle. C'est les gens qui sont éclairés. Le DJ est souvent pas trop éclairé dans un club, tu vois. Au contraire d'un concert où c'est le groupe qui est en plein phare et toi t'es dans le noir. Dans un club, c'est toi qui es la star, en fait. C'est toi qu'on met en valeur, que tu viens pour te montrer. Tu viens aussi pour partager avec tes gens et tout. Donc, c'est un rapport complètement différent au fait d'aller voir un concert, par exemple. C'est pas du tout la même expérience. Et l'artiste, tu vois, dans la musique électronique, c'est récent que les gens montent leur tête. Pendant des années, je savais pas Amon Tobin à quoi il ressemble. Je sais même pas d'ailleurs toujours à quoi il ressemble Amon Tobin, tu vois. Tous les DJ de cette époque, ils montraient pas du tout leur tête. C'était quelque chose d'acquis, tu vois. Et parce qu'on s'en foutait. C'était pas important la tête du DJ, si c'était une star ou pas, tu vois. Et donc il y a aussi cet aspect-là qui fait que c'est, bien sûr, c'est une musique qui se vit complètement et le club est le seul endroit qui propose cette expérience avec les raves, en fait.
Mais moi je comprends complètement ce que vous me dites et en même temps je me dis que le rock est devenu puissant, le rap l'est de plus en plus parce qu'ils ont su justement se diversifier, avoir des publics différents qui n'étaient pas là pour la même expérience. Alors qu'il y avait un tronc commun quand même, il y avait une culture commune, des aspects communs avec le rock de manière générale. Mais à travers plein d'embranchements comme ça, ils ont réussi à s'adresser et à montrer quand la richesse, la diversité aussi qui existait derrière tout ça. Et à la fois, moi, je trouve que c'est une grande richesse que de dire dans l'ADN de la musique électronique, il y a la communion, etc. Mais est-ce que ça peut pas être limitant parfois aussi?
Non, non, mais il y a pas que ça, hein, parce qu'en fait, ce qui a rendu la musique électronique populaire aussi, c'est son ouverture et son accessibilité. C'est-à-dire que si on était resté à des trucs techno, super dance floor, je pense pas qu'on aurait eu l'émergence des David Guetta, des La French Touch et tous ces gens-là. Donc, c'est justement, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît dans la musique électronique. Tu auras toujours des références. Toi, tu disais, j'aime bien les trucs un peu funky. Donc, t'as les trucs funky. Les gens qui aiment bien les trucs avec des paroles, il y a des paroles. Donc, au départ, c'était quelque chose de très intense, de très orienté sur le dance floor. Et puis finalement, tout le monde se l'est approprié et a créé des genres, des sous-genres. Et aujourd'hui, si tu regardes, il y a un mec qui a fait un schéma de tous les genres et les sous-genres de musique électronique. Mais même
vous
nous,
êtes pire que le métal.
Ah non, mais même nous, il y a des trucs.
Je pense qu'il y en a plus.
Non, mais le métal.
Ouais, je pense qu'il y en a plus.
Le métal, c'est la techno hardcore, c'est l'équivalent du métal. Et dans la techno hardcore, t'as 10 ou 15 sous-genres. Donc si tu veux, on est vraiment dans ce truc-là. Dans la house, t'as la ghetto house, la house funky, la house truc. Donc enfin, je te dis, hein, t'as un mec qui a fait cette représentation graphique de la musique électronique. C'est incroyable. Donc en fait, où tout le monde s'y retrouve aujourd'hui, tout le monde trouvera un truc, quel que soit le style, le truc, l'univers dont tu viens, tu auras toujours un point de repère. Les gens qui écoutent du métal, ils aiment bien la drum and bass parce que ça tape beaucoup dans les basses et tout ça. Le dubstep, ça y ressemblait un peu. Donc tu auras toujours des points de repère et je pense que c'est vraiment ça qui a fait aussi que elle a explosé la musique électronique. C'est qu'il y a eu une accessibilité à un moment avec tous ces genres et ces sous-genres qui ont fait que quasiment n'importe qui peut s'y retrouver et écouter un truc et dire « Ah, ça, je kiffe bien, ça me rappelle ce que j'écoutais, machin. » Donc, il y a effectivement, ça a commencé sur le dance floor, mais là, aujourd'hui, il y a tellement de genres et de sous-genres que elle est accessible à quasiment tout le monde.
Ouais, et sur ce qui est marrant avec ces sous-genres, c'est qu'il y a des sous-genres qui ont duré 2 ans, tu vois, mais dont des tubes sont restés intemporels, mais les gens ne savent même pas que c'est cette musique-là, tu vois. Par exemple, je pense à la Dream Music, tu vois, Robert Miles, Child, ou même le générique de X-Files, c'est de la Dream Music, tu vois, c'est des anthèmes de Dream Music. Tu tapes sur Google, tu verras, c'était la Dream Music, c'était énorme, c'était un truc, c'était vraiment un genre énorme, et ça a duré 2 ans.
C'était comme la tectonique.
Ouais, c'est ça.
Oui, t'as la tectonique, pareil, t'as des énormes tracks de tectonique, t'as la hard house, tu vois, t'as des tracks de hard house hyper connus, mais qui, voilà, ça a pas duré longtemps, tu vois, et c'est assez drôle et les gens te disent c'est de la techno, tu vois, mais non, en fait, c'était un sous-genre. Mais il y aurait un truc à creuser, hein, là-dedans, d'aller chercher les sous-genres d'électro, parce que c'est assez drôle, hein,
Et c'est intéressant aussi, d'ailleurs, comment c'est souvent le problème avec quand t'as plein de sous-genres, plein de termes, etc. Après, il commence à y avoir confusion entre les termes. Par exemple, musique électronique, électro-techno, rien que ces trois-là, déjà, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et puis, ça évolue en réalité avec le temps. Parce que je vois, par exemple, que le terme électro s'impose de plus en plus comme un équivalent, un synonyme de musique électronique. Ce qui est historiquement pas le cas.
Alors que c'est un genre.
Puis nous, on s'appelle la technoparade et en fait, il y a pas que de la techno sur la technoparade. Donc, c'est vrai que c'est des acronymes qui existent et qui sont présents à un moment, mais qui sont plus forcément pertinents. Aujourd'hui, c'est les musiques électroniques. C'est un truc infini en fait, et tu pourras toujours retrouver un truc nouveau. Enfin voilà, moi pour te sortir des trucs expérimentaux qui tournent à 300 BPM ou des trucs comme ça. Et t'as un public pour ça, et t'as des gens qui écoutent. Hein, donc c'est infini en fait.
Après, techno, c'est quand même un des seuls genres où tu sais qui l'a inventé. C'est Ron Atkins, il a trouvé le nom, c'est lui, c'est acté. Il y a même le disque, tu vois, qui est le premier disque techno, c'est Ron Atkins, quoi.
Est-ce que, parce que on parlait pas du live, de la culture, du club, etc. par hasard, parce qu'on est dans la partie vraiment là sur les événements, vous en organisez. C'est compliqué de monter des événements en France. Tommy, tout à l'heure, il a déjà glissé le petit truc. Et notamment, si on peut, est-ce que c'est aussi, on peut reconnecter avec la première partie? Parce que, est-ce que le politique a aussi une part de responsabilité là-dedans?
Ouais, complètement. Le politique, le préfet, c'est très compliqué d'organiser des événements en France. On a une législation du spectacle vivant qui est quand même assez complexe. On a beaucoup d'obligations. Il y a beaucoup de...
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets, être un peu docteur, qu'on comprenne? Demain, je veux monter un événement. C'est quoi les freins? Alors, j'imagine qu'ils doivent être nombreux, mais juste pour qu'on voit un peu.
Moi, je te donne un exemple. Hein. Moi, j'ai voulu faire un festival en 2017. qui devait accueillir 30 000 personnes sur une ancienne base militaire qui durait 3 jours. Il y avait 6 scènes, 120 artistes. On a bossé 2 ans pour l'organiser et 10 jours avant, il a été interdit pour menace terroriste.
Oh.
Et pourtant, on avait tout préparé. Bon, on avait une bonne assurance, on a pu rembourser tout le monde. On n'a pas, voilà, tout s'est bien passé. Mais t'as une incertitude permanente parce que t'as toujours des points d'étape. C'est-à-dire que en France, t'as une commission de sécurité qui vient un jour avant ton événement. S'il y a un truc qui va pas, tu peux ne pas ouvrir ton événement. Donc il y a des choses qui permettent. T'as plein de prestataires qui sont en charge de ta sécurité incendie, de ton truc. Mais en fait, en France, on est un pays très inquiet. Les gens ont très peur. Donc ils trouvent toujours des garde-fous au niveau de l'État pour se protéger. Et ça date en fait depuis... Il y a eu un incident dans un stade de foot en Corse qui s'appelait Furiani, où la tribune s'est effondrée. Et depuis là, ils ont mis en place tout un tas de contraintes de sécurité pour faire en sorte d'être sûr que ce sera jamais la responsabilité de l'État s'il y a un problème dans ton événement. Après, il y a eu Vigipirate. Vigipirate, ça fait depuis 95 que ça existe. Donc Vigipirate, ça implique quand même un certain nombre de contraintes de sécurité dans ton événement. Puis là, t'as le Covid avec les contraintes sanitaires. Et puis, comment tu embauches un artiste? Quel type de contrat? Si tu le fais pas bien, tu te fais redresser par l'URSSAF.
Alors, on pourrait dire que dans certains cas, c'est bien d'encadrer quand même, que l'État mette son nez pour pas qu'on
fasse n'importe quoi. Les règles, c'est bien. C'est mieux si t'arrives à les comprendre sans avoir fait bac plus 12. Parce que sinon, de toute façon, personne ne peut le faire. Et surtout, c'est des coûts énormes parce que tu fais appel à énormément de prestataires extérieurs qui vont intervenir sur ta sécurité incendie, sur l'accueil de ton public, sur ton truc, sur ton machin. Et donc finalement, si t'es pas sûr de le remplir, t'as beaucoup de moments où tu perds énormément d'argent quand tu organises un événement. Et c'est pas propre à la musique électronique, c'est propre à tous les événements. Sauf qu'en plus, avec la musique électronique, t'as ce côté un peu méfiant qu'on a eu pendant très longtemps et qu'on retrouve aujourd'hui, qui fait que en plus de ça, nous, quand on est arrivé dans le département que je ne citerai pas pour faire ce festival, le premier truc que les gendarmes ont dit, c'est « Ah tiens, les drogués déboulent chez nous. »
Let's go.
Donc si tu veux, t'as pas le même accueil quand tu fais une réunion en préfecture avec le colonel de gendarmerie, le colonel des pompiers, le sous-préfet, le truc, et que tu dis tu fais de la musique électronique, que quand tu dis tu viens faire du rock, de la musique classique ou un truc comme ça. Donc déjà, t'as un environnement qui est super contraignant pour organiser des événements, mais en plus, avec la musique électronique, t'as toujours ce petit arrière-goût de « mais qu'est-ce qu'ils vont nous foutre comme bordel chez nous ?» Et puis comme disait Max tout à l'heure, hein, nous on commence à jouer, il est 23h, donc on va jouer toute la nuit. Donc les gens, ils se disent « oh là là, je vais pas dormir pendant 3 jours, machin. » Donc on est quand même confronté à une législation complexe et les musiques électroniques, de par l'inquiétude qu'elles peuvent encore générer chez certaines personnes, complexifient encore un petit peu plus le process. Et donc effectivement, aujourd'hui, pour organiser un événement, vaut mieux être bien entouré, bien équipé et avoir les nerfs bien accrochés, parce que jusqu'à la dernière minute, tu sais pas si tu vas ouvrir. Et je te parle même pas de ceux qui ne connaissent pas les réglementations et qui font un événement, 2 événements, puis ensuite ils se prennent l'URSSAF, la TVA, le truc et le machin, et puis ils sont endettés toute leur vie parce que ils ont pas bien fait les choses. Donc on est vraiment dans un pays où c'est compliqué. On nous aide pas toujours quand c'est de la musique électronique, et puis il faut vraiment être très très attentif à ce que tu fais, parce que, et puis il faut pas se dire que à ton premier festival tu vas gagner de l'argent, quoi. Faut attendre 3, 4 ou 5 ans.
Moi, je me souviens d'un jeune qui avait fait un festival et ils s'étaient plantés. Et donc, à la fin du festival, j'ai été leur parler pour faire le point avec eux. Ils avaient pris un crédit à la consommation pour faire leur festival. Enfin, ils étaient dans une merde noire. Enfin, on a discuté. J'aurais dit, il faut pas prendre des crédits à la consommation pour faire des raves, quoi. Enfin, c'est pas bon, quoi. Faut pas faire ça, en fait, quoi. Et voilà, mais donc tu vois, il y a ce truc de gens qui, voilà, peut-être un truc de bonne volonté, mais non, faut vraiment connaître le.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des formations pour les organisateurs d'événements, nous, ouais, et beaucoup d'autres, exactement, organismes, pour que on soit certain que ces personnes-là aient tous les outils pour pouvoir faire les choses dans les règles, parce que c'est un univers complexe et il faut vraiment être bien accompagné et avoir tout le savoir et la connaissance pour y aller, parce que sinon, effectivement, il y a des chances que tu te prennes une tôle et c'est hyper démoralisant, en fait, quoi.
Et avant d'aborder vos formations, je voulais d'abord qu'on parle de United We Stream. Donc vous avez proposé United Stream pour soutenir les clubs et les aider à payer leur loyer en partenariat avec Arte Concert. Et vous avez aussi un autre projet qui s'appelle les UT, les zones d'urgence temporaires de la fête, pour accompagner la reprise suite à la crise du Covid. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de ça? Vous faites ça, je pense, à la Villette, mais dans d'autres endroits aussi en France?
United West Ham, je peux en parler brièvement. C'est une initiative allemande qui est à l'origine de Club Commission, qui est un peu le syndicat le rassemblement des clubs berlinois surtout et allemands, qui au début de la crise a monté des streamings sur Arte Concert en Allemagne, puisque c'est une chaîne franco-allemande qui diffuse, qui a deux canaux de diffusion en France et en Allemagne. Et donc c'était une occasion de faire jouer tous les DJs qu'on connaît dans les clubs vides filmés par Arte. Ils ont levé beaucoup d'argent, ça a très bien marché. Et du coup, ils ont contacté d'autres organisations un peu partout en Europe pour monter United We Stream dans d'autres pays. Et donc ils ont contacté Technopole et Tommy pour monter l'opération. Nous, on a la chance d'avoir Arte en France. On a contacté Arte. Ça a matché directement avec eux. Ils nous ont donné un mois de créneau de diffusion à raison de, ben, je crois qu'on était 5 soirs par semaine. Dans un premier temps, qu'on a pu faire que Paris parce que ça coûte assez cher de transporter des équipes de tournage. Arte, c'est quand même des équipes de tournage assez conséquentes. Hein, c'est pas juste un live stream avec une caméra. Donc, et voilà, on a quand même fait jouer, je pense, quelque chose près d'une centaine d'artistes, entre 80 et 100 artistes, tu vois. On a fait, du coup, travailler les clubs, travailler les techniciens. On n'a pas pris, par exemple, de Uber. On a pris des chauffeurs de festivals qui travaillaient pas. Et du coup, on a même rémunéré, si tu veux, les artistes, même si c'était rémunération forfaitaire. Mais l'idée, c'était de remettre les gens au boulot, quoi, un petit peu, tu vois. Et puis aussi de proposer une expérience live stream un peu plus cool que dans ton salon, tu vois, avec ton chat qui passe derrière. Voilà, là, t'étais avec des lights, ça envoyait, tu vois. Il y avait un gros son. On a même eu des fois des scénographies, des décos. On a fait aussi travailler, tu vois, ces gens-là, des danseurs aussi. Et voilà, ça a été une belle expérience. On a levé un petit peu d'argent, mais beaucoup moins qu'en Allemagne, tu vois, parce que je pense qu'on n'a pas le même attachement au club que les Allemands ont, qui est un attachement mondial. Hein. Le Berghain, c'est une marque connue dans le monde entier. Hein. C'est les gens vont à Berlin. Il y a beaucoup, une grande partie du tourisme qui vient à Berlin pour les clubs, hein, ce qui est moins le cas à Paris. Mais voilà, ça a été une belle expérience avec beaucoup de vues et on est très content et on espère là pouvoir faire justement boucler la boucle en faisant un United We Stream avec du public dans la ZUT de la Villette que Tommy va vous expliquer.
Parce que justement, donc là c'était un peu spécifiquement Michel, en fait il vous parlait en gros des événements que vous faites un peu en rapport avec la crise sanitaire, ouais. Parce que voilà, on a une période particulière, on l'a assez peu abordé globalement dans l'émission parce que pendant longtemps, hormis de dire bah c'est la merde, il y avait pas grand chose à dire quoi. On attend, voilà, bref. Mais c'est vrai que là il y a quand même des choses petit à petit qui devraient réouvrir, alors pas les clubs pour le moment, etc. Mais justement, vous avez une initiative qui serait qui c'est censé un peu accompagner, remettre un peu l'événement musical au cœur de la vie des gens en attendant le reste, quoi, en attendant le retour à la normale, si j'ai bien compris.
Ouais, on appelle ça les ZUT, zone d'urgence temporaire de la teuf. Alors à la base c'était la teuf, puis ensuite on nous a dit oui bon on va pas pouvoir faire la teuf tout de suite, donc c'est des zones d'urgence temporaires qui sont artistiques ou festives. En fait, nous, ça fait presque un an qu'on milite pour ça, parce qu'on s'est dit dès le début de la crise, il va falloir qu'on trouve un moyen de reprendre notre activité, en fait, hein, parce qu'on va pas attendre que tout redevienne normal, sinon on va attendre 2 ans. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on crée des lieux qui sont Covid compatibles, c'est-à-dire avec des normes sanitaires qui permettent d'accueillir du public et qui permettent aux artistes et au public de se retrouver, les artistes de recommencer à bosser et le public de finalement recommencer à profiter de ce contact, de ce lien social, humain, dont il se nourrit avec les artistes. Donc on a bossé, on a écrit des articles, on en a parlé au ministère, tout ça, et on a rencontré l'établissement public de la Villette, qui a un président qui s'appelle Didier Fusillé et qui a toujours été très ouvert sur justement le soutien à la création artistique, les trucs un peu innovants, et on lui a raconté ça, il a dit ouais mais c'est génial votre truc, donc on va faire ça à la Villette. On s'est dit bah écoute, il y a vraiment un terrain de jeu extraordinaire, le parc de la Villette, donc ça c'est cool. Et puis bah au fur et à mesure, il en a parlé au ministère de la Culture, il en a parlé à la ministre, qu'elle a dit, ah, les UT, c'est génial. Donc, ok, c'est bon. On a trouvé un nom super. Ça fait rire tout le monde. Et petit à petit, on a monté ça. Et là, on est en train de monter vraiment un espèce de programme au niveau national. On espère qu'il va y en avoir 30 ou 50 sur le territoire. Alors, ouais, c'est temporaire. Donc, ça peut être une après-midi, deux semaines, trois mois. C'est pour répondre à cette urgence, donc, de remettre tout le monde au boulot. Et donc, en fait, on a effectivement ce programme où on va organiser des événements, donc d'abord assis, puis ensuite à partir de juillet debout, et on va surtout essayer de faire en sorte que tous nos événements dont à Paris soient gratuits pour que tous les publics puissent revenir, parce que on est aussi dans un moment de crise qui fait que les gens, ils ont plus de thunes, hein, donc tu vas leur dire dépense 25€ tous les week-ends machin, ça va être un petit peu compliqué. Donc accessible, inclusif, axé sur l'engagement écologique, le circuit court artistique, la diversité, l'inclusion, la parité, et surtout faire en sorte que nous, avec les aides qu'on va avoir du ministère de la Culture, on puisse financer un petit peu les autres projets de ZUT qu'il va y avoir en région, en payant les plateaux artistiques, en les accompagnant. Donc c'est vraiment une démarche parmi d'autres, parce qu'on va pas être les seuls à faire des événements cet été, mais avoir le soutien du ministère de la Culture, avoir l'établissement public de la Villette derrière toi, ça donne aussi quand même un crédit. Donc quand tu vas avoir une mairie, quand tu vas avoir une préfecture, ça rassure un petit peu aussi sur le fait que t'es bien accompagné, t'es bien entouré, et que tu peux faire quelque chose sérieusement. Parce qu'encore une fois, là, on va reprendre les choses, mais on peut pas faire n'importe quoi, on est quand même encore dans une situation tendue, on nous met la pression de ouf, faut mettre les masques, les trucs, les machins, tout ça. Donc, on est dans un environnement encore un peu anxiogène, et on peut pas faire les choses n'importe comment. Et donc, vraiment, l'idée des UT, c'est de donner un cadre rassurant, aussi bien pour le public que pour les artistes, mais aussi pour les institutions, et faire en sorte qu'on soit dans un environnement qui soit le plus sécurisé possible, le plus sécurisant possible, avec des valeurs, parce que pour nous aussi, la fête, c'est un engagement, c'est des valeurs, et que tout ça, ça permette de recommencer à se revoir, à écouter de la musique. Puis c'est pluridisciplinaire, donc on va avoir des scénographies, des arts plastiques, enfin, ça va vraiment être un truc qui va être aussi visuel. Et l'idée, c'est qu'effectivement, entre le 18 juin et le 26 septembre, on inonde un peu toute la France avec ce concept, pour que on sonne un peu le retour de la fête, le retour du partage, le retour de la création artistique, et en attendant de pouvoir s'y remettre en vrai, en se collant les uns aux autres, en se léchant, en se mettant torse nu et en se faisant des bisous. On arrive.
ça doit être satisfaisant quand même de se dire que une idée comme ça, elle va se concrétiser, et puis un moment symbolique et pas facile et où, enfin,
franchement, c'est pas qu'on n'y croyait pas parce qu'on aurait tout fait pour y arriver, mais on a vraiment là réussi à donner vie à une espèce d'idée qu'on avait et comme on voulait lui donner vie, quoi, avec les soutiens dont on avait besoin, avec cette reconnaissance de l'institution ministère de la Culture. Donc on est hyper fiers de le faire, et en toute humilité, parce que finalement on fait vraiment ça au service de l'artiste, du public, et nous on est tous bénévoles, hein, chez Technopole. Donc c'est voilà, on travaille dessus parce qu'on est engagé dans cette volonté que les choses reprennent. Et quand on nous a dit banco, on s'est tous dit, on s'est pincé un peu, genre, mais c'est vrai en fait ou pas, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est hyper satisfaisant et on est super fiers de pouvoir le faire, et on espère que ça va vraiment marquer la reprise de l'activité, de la création artistique, et pour de bon cette fois, pour pas se retrouver encore dans une histoire de je sais pas quoi à la fin du mois de septembre.
Il y a un truc dont parlait Michel et qui est vrai, c'est que... Alors vous,
je dis pas de vraies choses, Salman.
Mais oui, c'est vrai. Vous êtes né à Lyon, mais vous faites quand même. Enfin, Technopole est né à Lyon, mais vous êtes quand même beaucoup dans des activités à Paris. La Technoparade, c'est aussi quand même un événement très parisien, même s'il est aussi dans d'autres villes. Hein, mais symboliquement, quand même, c'est la Technoparade de Paris quand même qui prend un peu le dessus. Le pouvoir politique, vos interlocuteurs, bah, ils sont beaucoup à Paris. Les événements, ils sont aussi quand même souvent à Paris. C'est un truc dont vous avez conscience, vous essayez de travailler sur les autres territoires, est-ce que d'ailleurs je me plante, est-ce que vous pouvez me dire non, on fait plein de trucs à côté, est-ce que c'est quand même un truc que vous avez en tête et vous dites ah ouais, il y a d'autres territoires à travailler, quoi.
Non, non, bien sûr, c'est bien pour ça que là on s'achemine, tu vois, sur ces antennes régionales. La première a été ouverte en Nouvelle-Aquitaine, et justement c'est aussi pour augmenter justement notre notre travail sur les sur des choses locales, parce que oui, tu dis c'est vrai, il y a beaucoup d'événements à Paris, mais il y a aussi beaucoup de festivals et de gros événements en région et qui rencontrent des problèmes des fois même bien plus compliqués que ceux qu'on rencontre à Paris. Et donc il faut qu'on s'unisse, et justement cette crise nous a permis de tous communiquer les uns avec les autres. Et il y a d'autres structures
qui travaillent ces territoires déjà, et ce qui manquait, c'était juste du lien, en fait, d'une certaine manière.
C'est ça. Trouver des interlocuteurs, trouver des gens installés, tu vois, depuis plusieurs années, qui ont pignon sur rue, qui font des événements reconnus, pour justement leur dire, bah, venez, on se met ensemble, et puis on va ouvrir ces antennes, qu'on va gérer, on va ouvrir aussi de la formation en local, tu vois, parce que pourquoi il faudrait que tu viennes forcément à Paris pour faire ta formation, tu vois, si t'habites à Bordeaux ou à Marseille, tu vois, il faut que tu puisses la faire à côté de chez toi, et justement montrer à quel point la musique électronique est nationale, en fait. Donc ouais, il y a d'autres antennes qui sont en train d'ouvrir là justement. Demain, je pars à Toulouse pour l'ouverture de l'antenne Occitanie.
Eh ben écoute,
on a PACA, Centre Val de Loire, et on a plein d'autres. Et je pense que c'est en fait, on a tout à fait conscience de ça. Et même, j'ai envie de dire que pour un événement à Paris, t'en as 100 en dehors de Paris. À Paris, on a peut-être un public un peu plus gâté parce qu'il y a les clubs, parce qu'il y a les trucs, parce que la ville de Paris est aussi très impliquée justement dans l'accompagnement, ce qui n'est pas toujours le cas en dehors de Paris. Et donc pour nous, c'est même hyper important que notre action, elle s'implante en dehors de Paris, en région, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se passent. Et vraiment, nous, notre volonté, c'est d'avoir ce maillage du territoire, parce qu'en fait, entre une région à une autre, les problèmes sont pas les mêmes. Et si on veut être le plus précis possible pour remonter ces problématiques auprès de nos institutions, pouvoir central à Paris, mais il y a aussi toutes les DRAC, hein, Direction des régionales des affaires culturelles, qui sont dans toutes les régions, il faut qu'on ait le contact avec tous les acteurs au niveau local. Et donc pour ça, c'est effectivement, on monte ces antennes, on a des groupes de travail, et on est encore plus précis dans les problématiques à remonter, et on peut s'occuper de tout le monde de façon très personnalisée, et on se retrouve pas effectivement dans un truc où c'est Paris, ça fait bien longtemps que nous on n'y croit pas. Et on croit vraiment dans la décentralisation, et on est certain que les talents, ils sont pas tous à Paris, quoi, ils sont dans toute la France, et donc il faut qu'on soit attentif, faut qu'on les accompagne, et faut qu'on s'assure que tout le territoire peut bosser de la même manière, et qu'il n'y ait pas un endroit où ils sont un peu oubliés, ils se sentent tout seuls, quoi. Donc c'est vraiment le travail qu'on a mis en œuvre depuis un an qui commence à porter ses fruits. Mais on a toujours eu cette attention, hein, pour ce qui se passe en dehors de Paris. On n'a jamais été le truc auto-centré, genre qu'est-ce qu'on se marre bien entre Parisiens, quoi.
Et est-ce que même il y a des ambitions au-delà de la France? On pourrait demander déjà à Michel qui est en Belgique. Est-ce qu'il y a des événements, typiquement, tu vois, des grands défilés type la Technopara, etc., à Bruxelles ou je ne sais où. Est-ce que tu as l'impression que la musique électronique, elle est un peu présente dans la vie belge parfois, ou
J'ai l'impression qu'il y a une scène belge. Je te dis que moi, je suis vraiment pas dans la techno, ce genre de style de musique là, et ça fait longtemps que les soirées dubstep de ma jeunesse sont passées. Donc non, je suis pas assez calé sur ce truc-là. Je sais qu'on a Stromae que vous essayez de nous voler. Et
ouais. Voilà. Vous avez Amélie Lens et Charlotte Devitt quand même, qui sont énormes stars aussi, de la musique électronique.
Ouais. Voilà.
Voire quasiment dans le top 5 mondial. Hein.
Il y avait une parade aussi à Bruxelles, la Steel Parade, je crois. Et surtout la Belgique, c'est Thierry Moon, c'est tous les clubs, enfin les Belges, ils sont parmi les pionniers de la musique électronique en Europe, hein. Le label Bandai Records, Dour Festival, enfin ouais,
c'est vrai, franchement, qu'il y a
Dour. On n'a pas, vous avez pas à rougir de quoi que ce soit.
Tomorrowland en Belgique, c'est gigantesque, c'est un des plus gros festivals au monde, hein, de musique électronique, si ce n'est le plus gros, je crois.
Hein. C'est le plus gros.
Ouais. Les Gong. Ben voilà. Tu vois, Salman?
Mais justement, je posais les questions.
Et puis la Belgique a inventé beaucoup de genres de musique électronique, hein, la New Beat, le BM, enfin c'est pas eux qui ont inventé le BM, mais quand même Front 242 est un groupe belge, hein, ils ont eu plein de groupes justement hyper talentueux sur ces genres-là.
Et justement, alors là, en plus, c'est la francophonie, enfin une partie de la Belgique en tout cas, donc c'est plus simple de tisser des liens. Mais est-ce que de manière générale, à l'échelle européenne, voire internationale, il y a un réseau autour des musiques électroniques, qui est des activistes à la fois politiques, socioculturels, etc.
Ouais, nous on est On est membre de Association for Electronic Music, qui est basée en Angleterre et qui regroupe les professionnels du monde entier de musique électronique, donc des Américains, des Hollandais. Donc ouais, il y a au-delà de nos frontières, il y a effectivement des choses qui se passent et c'est important, surtout pour nous qui sommes un peu en retard sur certains sujets, d'être en prise avec ce qui se passe à l'étranger et de bien comprendre finalement comment c'est structuré, comment ça fonctionne, et de bien pouvoir aussi comparer, donner des informations à nos institutions et leur dire regardez hein, ce qui se passe à l'étranger, regardez à côté de quoi on passe, et ça nous aide aussi à construire, à avoir des idées et à alimenter les discussions qu'on a avec les institutions, avec les politiques et tous ces gens-là, ouais.
Ouais, puis il y a des grands rendez-vous comme l'Amsterdam Dance Event mi-octobre, tous les mi-octobre, qui est un grand salon de tous les professionnels du monde entier qui se retrouvent pour des conférences, pour des meet-up, et puis surtout pour beaucoup beaucoup de soirées. Et c'est un beau succès parce que c'est pas juste un rendez-vous pro, c'est aussi un rendez-vous public parce que toutes les soirées sont pleines à craquer. Il y a vraiment tous les DJs de la planète qui se retrouvent et c'est un moment assez important dans la pour justement échanger avec les gens du monde entier.
400 000 personnes et 9 000 professionnels en 5 jours.
Et d'ailleurs, Technopole a depuis, on n'a pas pu le faire l'année dernière, mais depuis 2019, un pavillon français où on fait des showcases, on fait des meet-up, et voilà, et on accueille les compatriotes et les gens qui sont là pour justement montrer un peu la diversité de la scène française.
Les gars, avant de terminer cette émission, on a commencé à faire un bon tour. Un petit point quand même, dernière partie rapide sur votre travail de formation. Alors, on va pas voir tout ça parce que vous imaginez que c'est très varié ce que vous proposez comme accompagnement. Alors, c'est pour les producteurs d'événements, artistes, labels, enfin c'est vraiment très varié. Mais il y a un truc que je trouve intéressant, parce qu'on en a discuté, hein, et puis ça apparaît sur votre site, c'est qu'il y a quand même une réflexion globale sur l'avenir de la musique. Alors en plus avec la période actuelle où c'était un peu obligé de pas pouvoir agir directement, donc on pense. Et dans votre action de formation, en tout cas je le lis, vous me dites si c'est pertinent, mais je lis un peu votre action de formation, et l'idée de sensibiliser à certaines questions autour de la musique de demain, de prendre en compte des thématiques qui vont être cruciales. Alors évidemment, les thématiques écologiques, l'empreinte carbone. Tommy, tout à l'heure, tu as brièvement évoqué, et je pense qu'on peut peut-être, par exemple, s'arrêter là-dessus, le circuit court artistique. C'est quoi les enjeux, les grands défis de la musique pour demain, selon vous, et ce que vous cherchez à transmettre à travers vos formations, vos réflexions, etc.
En fait, déjà, les formations, c'est la base pour que les jeunes et les moins jeunes soient outillés. Et puissent comprendre ce à quoi ils doivent, ce qu'ils doivent mettre en place pour faire leur métier. Ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait un truc qui s'appelait un cycle de conférences qui s'appelait Danser demain. Où là, en fait, quand on a vu cette crise, on s'est dit est-ce qu'on continue à travailler comme si de rien n'était parce que allez, dans 2 ans ça reviendra, ou est-ce que c'est le moment de se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va danser demain. Et donc on a développé ces conférences, on a fait intervenir plus d'une centaine de personnes qui sont des chercheurs, des universitaires, des urbanistes, des géographes, des artistes, des collectifs, des labels, des politiques. Ils ont échangé pendant ces conférences autour de 3 sujets politiques, donc l'engagement politique de la musique, sa place sur l'espace public, ces choses-là, l'écologie, l'engagement écologique, qu'est-ce qu'on peut transformer dans nos pratiques, et la diversité, l'inclusion. La place des femmes, la parité, l'inclusion des minorités. Et en fait, là on sort un livre qui va être publié là, qui vient de sortir, qui vient d'être finalisé et qui va être mis en ligne très bientôt, qui s'appelle Danser demain, dans lequel on fait 70 propositions pour essayer de transformer les musiques électroniques, mais d'une manière générale la culture. Et ce à quoi nous on croit, c'est que il va y avoir deux mondes qui vont exister, le monde du divertissement, où tu vas aller dans un gros festival, comme tu vas chez Disneyland, comme tu vas regarder un film Avengers, tu réfléchis pas, tu viens un truc. Et le monde des événements plus engagés, avec des valeurs. Et dans ces valeurs, il y a effectivement le circuit court qui concerne ce que tu as fait à manger, les prestataires avec lesquels tu travailles, mais aussi les artistes que tu vas booker. Et on pense que, par exemple, le circuit court artistique, c'est un sujet qui va être beaucoup d'actualité, parce que, d'une part, on réfléchit sur la réduction de l'empreinte carbone des artistes dans leurs déplacements, l'optimisation des tournées, mais on réfléchit aussi à mettre en avant les talents locaux. C'est-à-dire, avant d'aller chercher une tête d'affiche qui a 5000 km, machin, qu'est-ce qu'il y a autour de chez toi? Et comment finalement, à travers ces actions, tu peux mettre en avant les artistes locaux, leur permettre de développer leur carrière et faire en sorte qu'ils aient les mêmes chances que les grands artistes pour se développer, qu'ils soient pas obligés de galérer pour trouver des dates et qu'on considère autant un jeune artiste émergent qu'une grande tête d'affiche et que quand on se dit « qu'est-ce que je vais faire comme plateau ?» Mais on regarde d'abord ce qu'il y a autour de nous avant d'aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté des frontières. Ça, c'est super important. Et toutes ces questions-là, on les sent de plus en plus présentes dans l'esprit des jeunes. Il y a de plus en plus de festivals qui s'engagent. Il y a un festival qui s'appelle le Sarcus Festival où quand il va, bah, tu mets ton téléphone portable dans une pochette et tu le récupères à la fin du week-end.
Ah ouais,
il y a des festivals qui s'engagent sur la récup, le réemploi des matériaux écologiques. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, les gens, de plus en plus, vont faire ce choix. Est-ce que je vais dans un festival pour voir un artiste, pour voir un line-up, ou parce que je partage les valeurs des organisateurs et que finalement, au-delà de leur plateau artistique, ce qu'ils véhiculent comme valeurs, les engagements qu'ils ont, j'ai envie d'y aller. Et nous, on avait vraiment envie que les choses se transforment dans ce sens-là et que aujourd'hui, finalement, tu sois plus simplement un consommateur, mais tu sois un consomme-acteur, comme disait Biocop quand ils se sont lancés, et que tout le monde soit impliqué finalement dans ce qu'on veut faire, hein, c'est-à-dire des choses plus vertueuses, des choses plus engagées, et ça passe par l'écologie, ça passe par la diversité, ça passe par la place des femmes, ça passe par tous ces sujets-là, et beaucoup d'autres qu'on a dans le livre Danser Demain, et qui sera en téléchargement gratuit sur notre site, accessible à toutes et à tous, pour que justement tout le monde puisse s'en emparer, et que finalement, on avec ces idées-là, on crée des vocations, des envies, et qu'à notre petit niveau, on est contribué à transformer un petit peu les engagements politiques, sans carte gauche ou droite, mais vraiment politique au sens « je m'engage pour transformer, pour faire changer les choses », des organisateurs d'événements et du public également.
Ouais, moi, si je peux rebondir justement sur peut-être l'aspect plus pour les artistes, tu vois. Moi, il y a des grands sujets voilà, qui sont les sujets de demain, qui sont le user-centric, sur le streaming, bah, c'est des sujets d'ailleurs que vous avez traités sur votre chaîne, puisque en plus, Salman, tu vas venir participer, j'espère, à la Paris Electronic Week cette année sur le sujet sur les NFT. Les NFT et la blockchain, c'est quand même une moi, c'est vraiment quelque chose que je milite en tant que manager, c'est la réappropriation de l'art par les artistes, c'est-à-dire ne plus se faire spoiler leurs œuvres par des middlemen inutilement. Et d'ailleurs, les artistes, grâce à justement des plateformes comme Bandcamp, comme justement aussi, tu vois, le vinyle, ont depuis pas mal, de plus en plus, et surtout dans l'électro, créé leur propre structure, leur propre label et repris le contrôle total de leurs œuvres. Et du coup, il y a un bras de fer qui est en cours justement avec les technologies et avec la blockchain, puisque la blockchain permettrait carrément, limite, de se passer de label en fait carrément. Donc, et on voit d'ailleurs que
et bon, pour le pire ça, et pour le meilleur, d'ailleurs, c'est pas toujours adapté, mais
c'est pas toujours
cas, ça
adapté.
Offre de nouvelles façons d'envisager les choses, c'est clair.
Et on voit les DSP qui de plus en plus ouvrent des comptes directement avec les artistes, tu vois. Donc voilà, il y a tout ce truc-là à réfléchir pour demain, à vraiment à travailler, que l'artiste soit aussi plus au courant sur les éditions, parce que les éditions, ça reste la clé aujourd'hui des revenus d'un artiste, hein. Et peut-être que l'avenir sera plus sur un travail d'éditeur, manager, agent, tu vois, ça sera peut-être un peu plus ça. Peut-être que le label sera plus géré par les managers, en fait, comme c'est souvent le cas, hein, d'ailleurs, sur la musique électronique, souvent le manager ou alors un label manager, tu vois, mais c'est plus un employé, en fait, qui travaille pour toi. Et peut-être sur notre réseau, hein, je parle, on se dirige de plus en plus sur quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant de voir comment les artistes vont aborder cette page qui est en train de s'écrire, puisque le streaming, moi, je pense qu'on est encore au niveau du Far West, là, aujourd'hui, tu vois, et que ça va évoluer, que ça va changer, tu vois. Là, il y a des gens qui se gaffent beaucoup trop sur le streaming, tu vois, c'est pas normal. Ils se gaffent beaucoup trop par rapport aux gens qui font les œuvres. Donc, forcément, c'est quelque chose qui va se réguler à un moment ou un autre, puisque tout pousse à aller justement vers une décentralisation des données, vers plus de liberté, de réappropriation. Donc, voilà, mais comme dit Tommy, je pense qu'il y aura toujours aussi, tu vois, ce truc où tu pourras aller d'un côté là, mais les artistes, je pense que c'est vraiment le challenge de demain, quoi.
T'as raison, mais c'est intéressant parce que je crois qu'il y a une tension. En fait, plus qu'un nouveau modèle qui va s'imposer, il y a une tension entre deux modèles et il faudra trouver le juste milieu, à mon avis, pour les artistes, entre cette quête d'indépendance légitime parce qu'elle permet plus de liberté artistique et aussi évidemment une maîtrise des revenus et d'avoir de mieux bouffer avec sa production. Mais en même temps, ça a un coût aussi, ça, de ne plus être entouré, de ne plus passer par des structures. Et c'est pas toujours bénéfique pour l'artiste non plus de se retrouver à devoir gérer seul, à devoir apprendre aussi, parce que ça s'improvise pas. Tous les artistes ne sont pas à même d'être des businessmen, entre guillemets, ou des entrepreneurs. Donc, c'est la tension de demain. Les intermédiaires vont pas tous sauter, mais quelle forme vont-ils prendre? Est-ce que l'artiste sera plus impliqué et sera plus au centre, comme tu le disais, avec le user-centric, etc., de ces intermédiaires? C'est assez passionnant.
Oui, mais regarde, on parle du rap, mais tous les rappeurs, les gros rappeurs aujourd'hui ont leur label. Ils sont tous en label deal chez des majors ou même pas des fois, chez des distributeurs.
Mais c'est souvent avec le distributeur.
Et d'ailleurs, le plus gros rappeur français aujourd'hui, il est complètement indépendant. Il est juste en distrib. Les deux plus gros rappeurs français, PNL et Jules, total indé. Et ils ont compris ça depuis bien longtemps, les rappeurs. Ça fait bien longtemps qu'ils ont créé des autoprods, tu vois, depuis la Clica, Assassin Productions. Enfin, voilà, donc... Je pense que c'est, tu vois, c'est des modèles. Nous, on s'inspire aussi beaucoup de ces réussites-là, et voilà, des labels aujourd'hui comme Infiné, tu vois, en France, qui est un label qui a quand même au moins plus de deux décennies, et vraiment aujourd'hui une référence avec des artistes comme Rhône qui a gagné un César et qui est toujours indépendant, tu vois. Et donc il y a des vrais succès, et je pense qu'on peut, tu vois, très bien, et même continuer à travailler avec des grosses structures, mais tu gardes le contrôle de ta musique et de ta créativité, en fait. Parce que c'est pas du tout pareil de signer en artist deal qu'en label deal, hein. C'est pas.
C'est ce que je dis toujours. C'est avant d'imaginer ce que je dois signer ou pas, etc. Ce qui compte, c'est quel contrat. C'est pas tant est-ce qu'il doit y avoir intermédiaire ou pas. Est-ce que le streaming ça paye ou pas. Non, c'est qu'est-ce que t'as signé, qu'est-ce que tu vas signer. Ça reste le truc le plus important et on l'oublie parfois. C'est très intéressant tout ça, les gars. Je pense qu'on a fait un bon point. Michel, t'avais éventuellement des trucs dont tu voulais parler encore ou
Non, moi, pour moi, on est bon. Si on est bon pour toi.
Eh ben, je suis d'accord. Il me reste quand même à vous remercier, les gars.
Ah bah oui.
Tommy, Max, peut-être quand même indiquer où est-ce qu'on peut trouver votre qu'est-ce qu'on peut mettre en avant votre travail, peut-être les infos sur est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'il y a un événement, peut-être les UT que vous voulez mettre en, enfin qu'est-ce qu'on peut mettre en avant autour de Technopole,
le site technopole.net, ouais. Les UT à partir du 18 juin sur le parc de la Villette, à Beaubourg et dans toute la France. La Paris Electronic Week à la fin du mois de septembre. Pas de technoparade malheureusement cette année, mais on va quand même essayer de la faire exister d'une manière ou d'une autre. Et puis bah surtout, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter. On est là pour ça et c'est à ça que servent les associations en France aussi. C'est le lien qu'on va créer entre le monde professionnel, le monde politique. Donc toute personne qui se pose une question, faut pas qu'elle hésite, hein, faut qu'elle vienne frapper à la porte. Et d'ailleurs, on va avoir un lieu qu'on va ouvrir, qui va faire sur le parc de la Villette, qu'on va récupérer, près de 400 mètres carrés, dans lequel on va installer quelques petits studios, une salle de formation, des bureaux pour les porteurs de projets.
Ce sera un lieu temporaire ou...
Bah, on va essayer d'y rester le plus longtemps possible, au moins 2 ou 3 ans pour nous. Hein, mais
avant d'avoir le château.
Ah bon, voilà, c'est ça. Et ce sera un peu notre première maison des musiques électroniques.
C'est ça.
Un projet qu'on essaye de porter depuis longtemps. Donc, venez nous rejoindre. De toute façon, ensemble, on est plus forts. Et surtout, dans notre pays où les choses sont complexes, faut pas hésiter à venir frapper à la porte des associations, des militants, des réseaux, pour que on vous soutienne, qu'on vous accompagne et que les gens puissent bosser et se projeter, avoir une carrière. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la musique électronique a jamais été aussi forte. En tout cas, moi, que ce que je vois depuis toutes ces années. Donc, il faut vraiment y aller. Mais faut pas y aller tout seul. Faut savoir où on met les pieds et nous on est là pour accompagner les gens, donc bah merci à vous de nous donner la parole aussi, parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître et que les gens peuvent finalement peut-être se retrouver un petit peu moins seuls quand ils sont face à leurs problèmes et à leurs envies.
Tout ça c'est grâce à Salman, ça.
C'est un plaisir. C'est Max à la base qui m'a contacté et c'est comme ça que j'ai découvert franchement Technopole, donc t'as bien fait, Max. et Michel, et des trucs à mettre en avant en ce moment, et, si j'ai vu quand même. Tu viens de sortir récemment la musique d'un générique d'un nouvel animé ou de, enfin j'ai vu un
truc ouais,
passer
mais ça,
avec Malek.
Un contrat, j'ai travaillé pour Mangetsu, voilà, c'est au demeurant c'est très très cool, mais là je viens de terminer mon roman policier, Salman.
Allez,
mon roman policier intitulé, en fait c'était Le Jardinier, Donc voilà, je peux pas communiquer la date exacte de sortie, mais ce sera vers la
rentrée. Ça a un rapport avec Omar Mathieu, parce que c'était le jardinier.
Mais c'est je peux pas te
ouais, bah
te
oui, tu vas pas nous plot, ouais, c'est clair.
Mais
tu vas pas nous spoiler.
Non,
voilà. Est-ce que tu raconteras quand même un jour, Michel, comment t'as réussi à trouver un éditeur, parce que c'est quand même
J'ai pris une très forte avance en plus, hein. Franchement, c'est... là, on s'est régalé. On s'est régalé. Merci.
C'est absolument incroyable. C'est... La vie est pleine de surprises.
Je ne fais que des braquages. Je ne pratique que le braquage. Je braque.
J'espère que tu mets des gants quand même, hein, parce que.
Ah, ben, c'est pas parisienne.
Bon.
Et toi, Salman?
Oui. Est-ce que j'ai des choses à mettre en avant en ce moment? J'ai envie de lancer une petite saga là sur dans mes vidéos culture son que je fais en parallèle de ce podcast sur la chaîne Monte le son, une petite saga où je pense que je vais m'arrêter sur les grands sites de streaming de musique, etc., à travers l'histoire. C'est-à-dire que je vais faire une saga où il y aura un épisode sur MySpace, un épisode sur Bandcamp, un épisode sur SoundCloud, comment c'est
sur Napster,
pourquoi pas, comment ces sites en plus ils ont créé parfois des scènes, des choses comme ça, enfin voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans. Ça va certainement être un des futurs projets. Et puis je pense aussi pour la rentrée prochaine, mais là on est déjà, je me projette déjà un peu plus loin, il va y avoir quand même, il sera temps de twitcher un peu, Michel, tu vois.
Let's go.
Je pense qu'à la rentrée prochaine,
voilà.
Et surtout le grand projet, bah c'est le prochain épisode dans 15 jours à peu près, où on fête les 1 an du podcast. L'idée, c'est de faire revenir d'anciens invités, de les faire tous se rencontrer et de discuter d'un sujet. On va voir un
All
peu
Star.
Plus à la cool All, exactement,
ah, All Star
DLT
Game.
All Star. Voilà.
Cool.
Bah, merci.
Encore
à tous.
Merci Max, bah,
merci
Michel.
À vous.
On se retrouve nous dans 15 jours et à très vite.
Régale,
yes.
Bye bye.
Merci à vous les gars.
Salut.
À bientôt.
Ciao.
Salut.